La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis, bienvenue sur Beurre FM. Confidence commence maintenant. À vos téléphones, allez, on y va. Les premiers arrivés, les premiers servis. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de Beurre FM, de Confidence notamment. Voilà, sujet libre, encore une fois ce soir. Donc, c'est vous qui faites l'émission. Alors, les premiers qui arrivent donnent en général le ton. Hein. Donc, c'est vous qui faites... les premiers, hein. Je parle des premiers. C'est vous, souvent, qui donnait le sujet et les autres arrivent, rebondissent, etc. C'est très bien comme ça d'ailleurs, hein, voilà. Donc on peut aborder un sujet d'actualité par exemple, ou parler de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, de plus personnel, voilà, vider un cœur trop plein. Venir chercher quelques conseils, j'allais dire quelques confidences, oui, quelques conseils, n'est-ce pas? Et puis surtout en donner, hein, puisque beaucoup attendent, en tous les cas, de vos expériences. 01 53 48 3000, mais avant de vous donner la parole, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, les Dublikoumch, Inch'Allah, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée aux personnes qui n'ont pas... Oui, à tous les terriens, oui, à tous les terriens, aux sans-domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux, à tout le monde. Voilà, sans distinction, hein, voilà, hein, d'accord. Nous sommes tous frères en humanité, bon sang. Quand est-ce qu'on va se inculquer dans l'esprit, dans le cerveau, hein? C'est vrai, on est tous frères en humanité. Il n'y a pas de communauté, ça n'existe pas. Allez, on fait éclater tout ça, d'accord. Il n'existe qu'une seule communauté terrienne. Et j'y inclus les animaux, bien sûr. Fatima nous appelle de Paris. Bonsoir, Fatima. Bonsoir, Fatima.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, quel bonheur, quelle joie de t'entendre, ma Fatima.
Je vous remercie, Vanessa, c'est réciproque. Vous êtes gentil. Le bonheur.
C'est gentil, merci.
C'est vrai, c'est la vérité. Peu importe, Vanessa, votre nationalité. Oui. Ce qui compte, Vanessa, c'est comment dirais-je, votre éducation et votre travail personnel. Vous êtes une personne raisonnée.
C'est gentil, merci, merci infiniment.
C'est la vérité.
Merci Fatima, je suis très touchée.
D'accord. Alors, je voudrais rebondir sur le témoignage de la dame d'hier, qui avait son enfant qui est atteint de la maladie, la schizophrénie.
Oui.
Alors, qui n'est plus un enfant, il a 32 ans.
Aujourd'hui. Oui, mais qui reste toujours un enfant pour sa maman.
Oui.
Ah, c'était Louisa de Toulon.
Je voulais dire par rapport à ce témoignage, d'abord, je félicite cette dame pour l'accomplissement de son devoir qu'elle a fait vis-à-vis de son enfant.
C'est vrai.
Et de sa responsabilité, c'est beau, Vanessa. Mmh. Elle a vraiment accompli son devoir du début à la fin.
C'est un enfant qu'elle a adopté.
Oui.
Hein, au Maroc, dans son pays d'origine.
Elle a
tout
été
petit,
une maman aimante.
De quelques jours, oui. Vraiment. C'est vraiment.
À la fin, il lui a fait un beau compliment, Vanessa.
Beaucoup de sacrifices.
Pardon, et puis il lui a dit que tu iras directement au paradis.
Oui, dans ces moments de lucidité, parce qu'il comprend.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sacrifices. Quand tu as écouté son parcours, c'est très compliqué.
Pas
très
évident, compliqué. Oui, elle a même la pauvreté battue par lui.
Oui.
Elle l'a dit, j'ai entendu.
Ben oui, parce qu'il se rend pas compte. C'est une maladie qui affecte tout le système nerveux, psychologique, etc. Qui fait que la personne, eh bien, quand elle est en état de crise, quand il y a ce qu'on appelle ces bouffées délirantes, eh bien, la personne, elle sort d'elle-même, de son humanité et de son identité, elle ne sait plus qui elle est. C'est l'histoire du docteur Jekyll, Mr. Hyde, hein, c'est un peu ça, hein.
Oui. Vanessa, justement, quand j'entendais la dame, et je vous ai entendu avec Méziel parler de ça, j'ai pensé aux trans, Vanessa.
Ah oui.
Vous savez, au Maroc et en Algérie aussi, il y a ce qu'on appelle les Alishawar.
Oui, dans le sud, hein, dans le Sahara, oui. Je crois. Hein, c'est comme ça. C'est ça.
En tout cas, à Agadir, moi, j'avais souvenir, Vanessa, je les voyais qui avalaient les, vous savez, les lames de rasoir.
Ah oui, c'est vrai.
Vanessa, et puis.
C'est ça.
Je ne sais pas ce que pensent les scientifiques, les neurologues, etc., par rapport aux trans. C'est pas évident.
Ben écoute, alors les scientifiques, ils sont très bien les scientifiques, hein, heureusement qu'ils sont là. Mais les scientifiques, eh bien, ne sortent jamais des sentiers battus, j'ai envie de dire. Ils ne sortent pas de leur domaine. À partir du moment où ça devient, entre guillemets, irrationnel, eh bien, pour eux, ils ne veulent pas entrer dedans, là-dedans. Alors, donc, pour eux, non, carrément, ils sont ils nient. Voilà, c'est dans le déni, carrément. Oui. Non, ça existe, c'est vrai. Maintenant, bon, il y en a qui donnent des significations mystiques, d'autres vont dire c'est surtout. Moi, hier je parlais du cerveau. Moi, je donnerais plus à côté. C'est plutôt rationnel que mystique. C'est plutôt dans le sens où le cerveau, on n'en connaît pas grand chose. Hein, même les chercheurs,
parce
tout
que,
ça.
Vanessa, je vous ai entendu hier. Il y a une différence quand même entre l'explication que l'on donne au cerveau et l'explication que l'on donne au psychique. C'est différent.
Mais enfin, tout ça fait partie. Voilà.
Il a une autre interprétation et le cerveau a une autre, quoi.
Les deux sont liés pour moi.
Il y a aussi la biologie dans le cerveau.
Oui, mais justement, le cerveau, il y a le côté psychologique. On peut pas y échapper, hein, parce que c'est lui qui nous dirige et qui dirige le reste de nos sens. Et je suis d'accord avec toi entièrement. Et d'ailleurs, le cerveau, je pense qu'on en connaît si peu que on n'arrive pas à expliquer. Le fait que, par exemple, on parlait des Aïssawa, tout ça, les trans, il y a aussi les fakirs, faut pas les oublier, hein. Les fakirs, les Indiens qui marchent sur des planches à clous, sur des braises, hein, qui marchent sur des braises également, et sur du verre pilé, et sans se blesser. Sans se blesser. Alors, donc, cela ne vient pas.
Sans avoir de douleur.
Oui, justement, sans avoir de douleur, ni être blessé, ni ressentir la douleur, ni de sang versé. Alors c'est là où on se dit, eh bien, c'est qu'ils font fonctionner, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, hein, eh bien, à mon avis, ils font fonctionner cette partie du cerveau qui est inexplorée, qui est endormie, hein, dont on ne se sert pas. Et donc, ils la font fonctionner parce qu'ils ont ce sens de plus. Donc, ils la font fonctionner. À ce moment-là, il y a comme un espèce de déclic, tu vois, et qui fait que, eh bien, qui envoie l'information au corps, à l'organisme, pour inhiber certains nerfs, hein, pour leur envoyer une information, pour les inhiber, oui, c'est cela, et les anesthésier. Donc, ce qui fait que, voilà, moi, je pense que c'est à ce moment-là. Oui. Parce que quand on nous endort, quand on est anesthésié, quand on subit une intervention chirurgicale, eh bien, on peut nous faire ce qu'on veut, hein, on nous charcute tout ce que tu veux, on ne ressent pas la douleur. Alors, donc, c'est parce qu'on endort, on nous endort, notre cerveau dort. Alors, pendant leur réveil, ces personnes qui sont les fakirs, qui marchent sur les clous, etc., et sur les braises, eh bien, endorment, arrivent avec de la méditation, je pense, une forme de méditation et un savoir-faire. Ils ont quelque chose de plus, ces gens-là. Donc, à maîtriser cette partie du cerveau qu'ils inhibent pour inhiber les nerfs qui vont directement... quand on marche sur, je te disais tout à l'heure, sur du verre, etc., qu'il n'y a pas de blessure. Je pense qu'ils arrivent à maîtriser. Moi, je pense. Oui.
Vous êtes très cultivée, c'est vrai. Vous donnez
non, curieuse.
La réponse par rapport à la cause et au sens.
Ben, je suis curieuse.
Alors, la formation, elle joue dans le cerveau.
Ben, écoute, Je ne l'ai appris nulle part, hein, j'avoue. Je ne possède pas la science. Voilà, je ne possède pas la science infuse. Hein. Mais j'essaye de m'informer sur des choses, tout simplement, qui m'intéressent. J'aime connaître apprendre, de la nature. Oui. Voilà, j'aime apprendre de la nature.
Oui,
certaines choses.
La connaissance est importante.
Voilà, l'être humain, ce qu'il représente, etc. Comme j'aime, par exemple, faire la cuisine, et j'ai appris à faire la cuisine, tu vois, par exemple.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est pas une, oui, voilà, une intelligence humaine.
Une grande cuisine, et quitte à avoir une petite chambre à coucher et une petite chambre d'amis.
Tu sais, moi, je me contente de pas grand-chose. Je te promets, mais c'est vrai, je me contente de pas grand-chose. J'ai pas besoin de vivre dans un château. Une petite chaumière, ça me va très très bien. Douillette, avec mes animaux et puis tous les gens qu'on aime, hein, recevoir. Et leur faire la cuisine.
Proche, quoi. Oui.
C'est vrai, on peut être heureux dans un petit lieu.
Je
ne
veux pas rester longtemps. Je voudrais juste donner mon témoignage. Je vous l'ai raconté il y a longtemps, Vanessa, que je suis une fille adoptive.
C'est vrai, adoptée.
Oui, mais moi, comment dirais-je, mes parents, ils me l'ont dit, ils me l'ont révélé très tôt, à l'âge de 5 ans, 6 ans.
D'accord, très bien. Donc
oui,
c'est
ma maman qui me l'a dit la première dans ma chambre. Ah. Elle m'a dit, voilà, nous ne sommes pas tes vrais parents, nous sommes tes parents adoptifs, mais on t'aime, quoi.
Ah oui, c'est important.
Et puis, par la suite, mon père est venu, il a continué à m'expliquer. Et ils m'ont dit que tes vrais parents, ils habitent à Agadir. Si tu veux les voir, on va les inviter. J'ai dit non, je ne veux pas les voir.
Ah oui?
Oui, mais mes parents, ils ont tellement... C'est des gens spirituels et Vanessa, ils ont beaucoup d'amour. Ils les ont invités, Vanessa.
Ah oui.
Et j'ai vu la maman, par contre, avec ses enfants, par contre, son mari, mon père biologique, il n'était pas là parce qu'il travaillait, il était en France, il travaillait en France.
Ah oui, d'accord. Donc tu ne l'as jamais rencontré.
Elle m'a dit de venir dans ses bras, ma maman biologique. Je lui ai dit non, excusez-moi, maman, c'est ma maman, moi je ne veux pas connaître quelqu'un d'autre.
Ah oui. Tu avais quel âge? Tu avais quel âge?
5 ans.
5 ans, ah oui, d'accord. Oui, bah oui.
Voilà, ça s'est bien passé, quoi.
D'accord.
Oui. Par contre, Vanessa, comme je voulais raconter aussi dans mon témoignage lors d'une émission il y a longtemps, par contre, à l'âge de l'avant, j'ai eu une épreuve. Là, c'est la panique.
Ah oui, 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 oui.
J'étais
oui.
à l'âge de 9 ans, j'étais victime d'attouchement sexuel et ma copine Eva a été victime des attouchements que me faisaient ses propres parents.
Son père, c'est ça?
Oui, son père et sa mère lui faisaient constamment ça et puis moi aussi, ils m'en ont fait.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la mère aussi? Oh, c'est incroyable.
Ce qui est resté dans ma tête.
Je me souviens que tu avais raconté cette histoire.
Que me faisaient les parents d'Eva. Ils m'ont dit que si je racontais ça à mes parents, ils vont dire que c'est moi qui fais ça à leur fille.
Oh là 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 là.
Vous imaginez?
Non, mais c'est
vous savez, Vanessa, je me souviens, je vous l'ai dit,
il y a la maman
d'Eva qui nous lavait dans la salle de bain et puis elle nous faisait rentrer dans la chambre à coucher où on subissait la fellation, les attouchements, tout ça.
Quelle horreur. Et, sa fille et toi?
Oui.
Toutes les deux?
Oui, toutes les deux.
Quelle horreur.
Je ne sais pas, ça a duré pour moi 4 ou 5 jours.
Et tu y allais, tu retournais quand même?
Le quatrième jour, je disais à mon père et à ma mère, je ne voulais pas aller chez eux. Ils m'ont dit, non, il faut que tu ailles, que tu travailles, parce qu'ils nous faisaient des devoirs. Ils étaient tous les deux enseignants.
Oh, quelle horreur.
Oui. Oh. Et puis le cinquième jour, j'avais 9 ans, Vanessa, j'étais presque à poil. Et j'ai vu qu'il y avait une fenêtre ouverte. Je suis sortie par la fenêtre, toute nue. Et j'ai couru. Agadir, c'était petit dans ce temps-là.
C'était pas ici? C'était pas en France? C'était à Agadir?
Oui, c'était à Agadir.
D'accord.
Ouais.
Quelle horreur.
J'ai couru jusqu'à la station de mon père, et puis mon père, il m'a vu comme ça, nu. il m'a pris dans ses bras, il m'a couverte. Après, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà.
Tu lui as raconté?
Ouais. Je ne voulais pas partir.
Et qu'est-ce qu'il a dit ton papa? Qu'est-ce qu'il a dit ton père à ce moment-là?
Ah, mon père, il m'a couverte. On est allé à la maison. Chez moi, il a dit à maman de s'habiller, de mettre Sadje là-bas.
Oui.
Et puis mon père, il m'a dit je vais le tuer. C'est pas bien ce qu'il te fait.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, ton père?
Oui, bon, par la suite, il y a eu la justice, il y a eu le consulat.
D'accord, donc ils ont été quand même déposer plainte, oui.
Déjà, c'était des Allemands.
D'accord.
Et qui donc, enseignaient là-bas.
Quelle horreur.
Et puis, par la suite, ma mère et mon père, ils ont demandé que la fille reste chez nous.
Ah oui? Pour la mettre à l'abri, la petite, mais bon.
Oh, oui,
mais non,
oui.
À partir du moment
puis,
où elle a son
consul. Je crois qu'ils ont dit non.
Ben non, l'ambassade et.
Voilà. Ouais.
Mais et ils ont été inquiétés au moins.
Ils m'ont dit que c'est pas bien, c'est un crime.
Non, mais bien sûr, c'est un crime. Est-ce qu'ils ont été inquiétés?
À leur fille et à moi.
Oui, est-ce qu'ils ont été inquiétés par la justice?
Comment dirais-je, la justice, selon ce que je savais. Est-ce que la justice a pris la fille des parents?
Oui, et les parents, qu'est-ce qu'ils ont eu?
Ah, je ne sais pas, je crois que Vanessa, ils ont été, en tout cas, ils ont été expulsés du Maroc. Je crois qu'ils ont eu des sanctions, je ne sais pas.
Ah oui, c'est tout, bah dis donc.
Oui, je ne sais pas. Mais moi, j'ai...
Expulsés du Maroc, ils auraient dû les mettre en prison au Maroc.
Vanessa, oui. Je me posais des questions. J'ai dit, comment se fait-il ses propres parents? Et moi qui suis adoptive, j'avais toujours peur.
Ce monde. Ouais.
Et puis, mais mes parents, ils me rassuraient constamment. Ils me rassuraient. Mm-hmm. Ils me disent, ne t'inquiète pas, c'est criminel ce qu'ils ont fait. Le papa et la maman biologique ne doivent pas faire ça à leurs enfants et les parents adoptifs ne doivent pas non plus
est-ce que tu as été suivi par un psychologue ou un pédopsychiatre ou oui bien sûr
oui non, non. Ça s'est bien passé, Vanessa, j'étais rassurée et entourée d'amour quoi.
D'accord.
Et ils m'ont bien expliqué.
Oh, d'accord. Oui.
Oui.
Oui, c'est bien que tes parents étaient proches de toi et ils ont fait ce qu'il fallait et
oui.
C'est important d'écouter les enfants, mais quelle horreur.
J'avais peur, Vanessa.
Ouais. Bien sûr.
Très, très, très. Même quand ils me rassuraient, j'avais.
Mais
très,
oui, c'est un traumatisme.
Peur.
C'est pour ça que même si tes parents te rassurent, je pense qu'ils auraient dû t'emmener quand même aller voir un psychologue.
Oui.
Mais oui, parce que les parents aimants, tes parents aimants, c'est bien.
Ils étaient rares et ils étaient très chers.
Oui, c'était au Maroc. C'est un peu compliqué dans ces pays-là. C'est vrai qu'en France, on a plus de possibilités d'aller voir tout de suite un psychologue, hein, mais bon,
oui,
je pense
oui,
qu'aujourd'hui
oui.
Les choses sont différentes là-bas aussi. Peut-être que les gens mènent leurs enfants chez les psychologues, hein, comme partout.
Voilà, Vanessa.
Fatima, je suis obligée de te laisser, on est à la pause.
Vanessa, est-ce que je peux parler?
Je te reprends juste après. À tout de suite.
D'accord.
Ne pars pas.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48, 3000 sujets libres et on reprend avec Fatima. Juste avant Fatima, on parlait justement de ces drames, hein, de tous ces enfants comme toi, ce que tu as subi, hein, de ces atrocités. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout à l'heure tu me disais qu'à l'époque je te parlais des psychologues, etc. Tu disais au Maroc, mais même en France à l'époque... À l'époque, il y a 20, 30 ans en arrière, c'est vrai que même en France, les enfants, les parents n'avaient pas cette... systématiquement, hein, spontanément, ils n'emmenaient pas leurs enfants voir un psy, hein, parce qu'ils pensaient qu'un psy, il fallait vraiment... Mais c'est vrai que c'est plus d'époque, c'est plus de notre époque aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de drames qui ont été cachés avant, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Beaucoup de drames comme le tien, que ce soit des abus sur les enfants,
sexuels
sur les enfants, ou l'inceste, etc. C'était tabou. C'était le grand. Et ça reste encore tabou. Hein. Ça reste encore tabou. Et d'ailleurs, même ici, On n'en parle pas tant que ça, je trouve. C'est comme si c'était quelque chose de tellement... voilà, ça écorche les oreilles, on ne veut pas trop en parler. À la télévision, voilà, par exemple, à la télévision, il y a beaucoup d'émissions sur beaucoup de choses. On parle de tout, des maladies, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, les langues se délient sur pas mal de sujets. Mais concernant l'inceste et les abus sexuels sur les enfants... Ben, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein. C'est pour ça que les familles
que
ne sont...
Ben
oui, mais c'est parce que c'est... Oui, c'était crime. Justement, on n'en parle pas suffisamment. Je pense qu'on ne donne pas assez d'espace dans les médias.
Oui.
J'ai l'impression que c'est le grand tabou. On continue. Et pourtant, nous sommes dans un pays moderne où justement, il n'y a pas la langue de bois, où on dénonce beaucoup de choses. Mais, en l'occurrence, ces choses abominables... monstrueuses qui sont commises sur les enfants, ben je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Oui.
Hein, on a beau essayer, j'ai beau essayer de voir les programmes, etc., que ce soit le soir, l'après-midi, etc., voilà, on va parler de séparation, de divorce, de retrouvailles, de deuil, de plein de choses, mais de maladies, concernant ces crimes commis sur les enfants, il n'y en a pas tant que ça, réfléchissez, il n'y en a pas vraiment. Il y a un truc qui tombe pas rond, quoi.
Oui, parce que ça fait mal, Vanessa, je vous assure.
C'est la base de tout, l'enfant, c'est pas possible. C'est la base de la vie.
Ça fait mal de subir ça à l'âge de 8 ans, 9 ans.
Bien sûr.
C'est dur.
Mais bien sûr, et parfois, l'inceste, quand on entend... d'ailleurs, on a eu des témoignages à l'antenne... des pères, des parents, des frères, des grands-pères... c'est l'horreur. Oui.
Vanessa, c'est comme ma copine. Pour elle, c'est l'inceste, et moi, c'est des abus sexuels.
Oui, c'est de la pédophilie. Allez, voilà. C'est des choses qu'il faut dénoncer, vraiment. On devrait donner de l'espace. Oui, tu voulais me parler d'autre chose, vas-y.
Oui, justement, je voudrais changer de direction, mais je reste pas très longtemps.
Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Oui.
Quoique c'est pas une autre direction, car tout est lié.
Mmh.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit un auditeur, il y a 3 jours, je crois, ou la semaine dernière, qui a cité Malraux qui a cité Malraux avec sa formule qui a dit le 21e siècle sera-t-il spirituel ou pas ?
Ou ne sera pas, oui.
Oui, voilà. Est-ce que le 21e siècle sera spirituel ou ne le
Ça dépend
pas.
De ce qu'on entend par spirituel, hein, parce que la spiritualité, faut la chercher. Hein.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce qu'ils entendent, hein, parce que religiosité et spiritualité, c'est deux choses différentes.
Pensez à la psychanalyse, les démons dans la psyché de l'homme.
Mmh.
Ou bien il pense au philosophe de l'intuition qui est Henri Bergson.
Écoute, je ne sais pas.
Attendez, Vanessa, parce que Henri Bergson, il est très très important, Vanessa, dans ses travaux.
Oui, peut-être, mais est-ce qu'il est cité chez Malraux,
Vanessa, sur la matière et sur la mémoire.
Oui,
et
mais est-ce qu'il est cité chez Malraux ? Oui.
Bien sûr.
Ah, voilà, d'accord.
La spiritualité, la conscience.
Parce qu'il y a la spiritualité, la religion et puis il y a aussi le mystique. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Et à l'époque, c'est vrai que les gens faisaient un amalgame de tout ça. Et voilà. Donc, maintenant, il faut dénouer un peu.
Oui, mais lui, Bergson, il a dénoué tout ça, Vanessa.
Oui.
Il a parlé de la morale et de la religion. Mais ce qui est important, Vanessa, ce sont ses travaux, Vanessa, sur la matière et sur la mémoire. Et il parle, par exemple, Vanessa, il parle du corps et de l'âme.
Et de l'énergie spirituelle, surtout.
Oui, et de l'énergie spirituelle, d'où la liberté, Vanessa.
Oui, et voilà, mais aucunement il ne fait référence directement à la religion.
Non, pas du tout.
Il
a travaillé sur la religion et la morale, ce qui n'a rien à voir avec la spiritualité, et il a travaillé sur la matière. Par exemple, il dit, Vanessa, que la matière appartient au monde du corps. Et la mémoire, elle appartient à la durée pure du moi profond, donc de l'âme.
Mmh.
D'où la liberté.
Eh oui, la liberté de penser.
Elle n'a pas résolu, Vanessa.
Moi, je pense que personne ne va. L'âme. Oui, je pense que ni lui ni personne ne. N'est prêt de non, à trouver.
Il l'a expliqué.
Oui, oui, enfin, c'est sa théorie à lui, hein, maintenant, Fatima.
Oui,
hein, on est d'accord. Hein.
D'accord avec
voilà,
vous,
c'est sa théorie à lui. Il y a plus de matériel hein, dans ce.
Une
dans
science
ses...
exacte voilà. N'existe pas. C'est des théories.
Voilà. Et justement, c'est bien de puiser un peu dans toutes les théories, hein, même dans,
oui, oui, oui,
dans
oui,
la
absolument.
Physique. Comment dire, quantique, comme on peut aller aussi chez les philosophes, on peut puiser dans tout, hein. On peut
oui,
faire une.
Oui, oui.
Tu comprends
oui,
sa petite tambouille à soi.
Oui.
Et puis, c'est à partir de là qu'on arrive peut-être un peu à,
en tout cas,
à réfléchir hein, sur notre
oui.
condition.
Oui, absolument.
En, oui. en prenant un peu de tout, pas en se fixant juste sur un. Parce que les personnes qui restent butées juste dans oui. un domaine ou dans une référence, une seule et pas deux.
Oui.
Oula, oula, moi j'ai envie de
oui.
dire oula.
Et de rester sur le fixisme, c'est pas bon.
Voilà, exactement.
En tout cas, Vanessa Bergson, lui, il explique le moi profond qui est l'âme.
Oui.
Voilà. En fait, pour lui, le fond de tout, pour Bergson, Vanessa, c'est l'esprit créateur, la liberté, qui mmh. exige une conscience de soi et une spiritualité.
Mais oui, c'est.
Qui n'a rien à voir avec la religion.
Ah non, 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 rien. Non, non. Non, non, ça n'a rien à voir parce qu'on mélange un peu tout
oui.
souvent. Hein. Mais voilà.
Oui.
C'est très bien de remettre les choses dans leur contexte. En tout cas, merci
d'accord.
Fatima. Merci. C'est toujours très agréable de t'écouter.
Et je fais un gros bisou à la dame d'hier.
D'accord, Louisa.
Oui, Louisa.
Et
voilà.
Moi aussi, je t'embrasse très très fort et reviens.
Elle est à son fils, j'ai beaucoup d'amour.
Merci à toi aussi, ma Fatima.
Au revoir, Vanessa.
Gros bisous. Reviens vite, à bientôt. 01 53 48 3000. Nous sommes ensemble. Le ton est donné. Si vous voulez répondre, rebondir sur l'intervention de Fatima, qui est très intéressante, puisqu'elle a abordé plusieurs sujets hein, dans son intervention. Donc voilà, donc vous venez, et sinon vous pouvez parler d'autre chose, bien entendu. Alors Nourdine, on va aller à Marseille. Bonsoir Nourdine. Nourdine de Marseille. Bonsoir Nourdine
oui,
de Marseille.
Bonsoir.
Bienvenue.
Je vous téléphone pour mettre un peu de gaieté dans cette radio un peu.
Ah ben bah, on en a tout le temps, tous les soirs de la gaieté. On parle de choses
ouais.
tristes, mais on rebondit aussitôt.
Ouais, ouais.
Alors on y va.
Ben voilà, bon. Je salue toute la France déjà.
Oui.
Voilà. Et voilà, quoi, je suis un peu ému. Excusez-moi, mais bon.
Mais non, ça va aller, on se détend, on se détend. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nourdine ?
Ah ben voilà, ben justement, si je peux envoyer une annonce.
Ah ben l'annonce, ce sera pour le matin, hein, parce qu'il y a des petites annonces. Hein.
Entre guillemets.
Ouais.
Voilà. Depuis 2010, j'ai le bel appartement, c'est tout froid, je suis content, et voilà.
Alors j'aime bien parce qu'il dit, je vais mettre un peu de gaieté dans votre émission, je suis seul, je suis tout seul, il fait froid, j'aime bien là, dans l'appartement.
Il fait beau chez moi.
Non, mais t'as dit, je suis tout seul, je sais pas quoi, enfin, bon.
Non, mais bon, faut dire, bon, les malheurs, bon.
Mais c'est pas malheureux d'être seul. On dit bien qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. Tu as des personnes voilà. qui vivent en couple et qui se déchirent tous les jours. C'est une vie, ça ?
Eh oui, non, parce que bon,
alors.
Je me suis fait pas voir avec mon ex. Ça fait que maintenant, j'ouvre les yeux, quoi. Voilà, face à me parler.
Oui, enfin bon, t'es heureux tout seul. Prends un chat ou un chien, c'est bien, je t'assure.
Non, franchement, non.
Non, bon, bah écoute, reste tout seul. Qu'est-ce que je te dise ?
Non.
Qu'est-ce que je te dise ? Hein, franchement. Écoute, Beurre FM, tu te sentiras moins seul.
Ouais, c'est ce que je fais, hein. Tous les jours, j'écoute.
Formidable.
Je mets un peu à fond la musique, tranquille.
Génial. Voilà. Eh ben, écoute, tu fais bien.
Voilà. Eh ben, en fait, la radio, elle est super, quoi.
Ben
voilà.
Oui, c'est pour ça qu'on est là et on essaye toujours de faire de notre mieux. Là, en tout cas, merci de l'écouter de Marseille, hein. Et voilà. Puis, quelle chance de vivre dans une si belle région, en tout cas.
Et j'envoie un message aussi, voilà.
Merci Nourdine.
Pas de problème.
Gros bisous, à bientôt.
Voilà.
Un gros bisou à tous les Marseillais.
Allez l'OM.
Nadia nous appelle de la Seine-et-Marne. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. De la Seine-et-Marne.
Non, c'est Nabila.
Ah, c'est Nabila. Alors
oui.
C'est Nabila.
Nabila de Cesson.
De Cesson. Cesson.
Oui.
Cesson.
Oui.
Ah, je connais pas Cesson.
Nabila ? Mais si, Nabila, tu connais. Cesson, tu connais pas, mais Nabila, tu connais.
Ah, c'est, je reconnais la voix. Nabila, mes sonniers.
Ça va, oui, mon Dieu, merci.
Nabila, la grande. Hein,
la c'est grande, ça, ouais,
la
voilà.
La grande.
Ouais.
Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. Mais écoute, mon, ça va,
je
ma chérie.
Avec ma maman.
Oh, tu lui fais un gros bisou.
Ma mère, c'est adepte. Elle passe pas une. Écoutez, Vanessa.
Oh, c'est un amour.
J'en suis presque jalouse.
Ah, mais non. Alors, bichoudahelek. Oui, t'as voulu aller à Amar, Inch'Allah. Vraiment.
Maman, je voulais rebondir un peu sur ce qui se passe un peu en Algérie.
Oui.
La
alors.
Veille du dernier vendredi, en espérant que ça soit vraiment le dernier,
oui.
Que ça puisse.
Dis-moi, Nabila, est-ce que tu as laissé la radio ou le haut-parleur?
Ah ouais, c'est ma mère qui écoute de l'autre côté.
J'entends bon, un mot sur trois.
Là, c'est bon.
C'est mieux. C'est mieux.
C'est mieux, là, ouais, je suis isolée.
C'est donc, bien, heureusement que tu habites à Château, hein, tu peux bouger au moins.
T'as vu, bien sûr.
Super. Alors, ma chérie, dis-moi.
J'ai assisté à deux marches là-bas.
Oui.
Donc, j'ai été vraiment spécialement pour y assister, et puis parce que je me sens concernée, comme tout Algérien, je pense.
Tu te souviens les marches qu'on avait faites, nous, à l'époque?
Absolument. Là,
on a milité avec Nabila, on a milité, on s'est. Hein, très honnêtement, on a été très courageuse parce que c'était la décennie noire.
Absolument.
Alors, sortir à Alger, militer et puis braver même, si tu te souviens.
Le
couvre-feu, on sortait le soir en plein couvre-feu parce qu'on devait sauver certaines vies, si tu te souviens. Eh bien, on l'a bravé le couvre-feu et on avait des barrages et des, tout ça et on n'avait pas peur. Elle est là pour témoigner, Nabila. Souviens-toi, ma chérie.
C'est vrai. Oui, ça c'est.
On en a fait.
On a eu des moments comme ça. Non,
on n'était que des femmes en plus. Hein.
Oui, c'est vrai. Donc, je voulais dire que.
Alors, vas-y, ma chérie.
J'ai assisté à ces marches et j'ai trouvé que dans le peuple algérien, du moins celui que moi j'ai connu à mon époque et que tu as connu aussi,
oui.
Il y a vraiment une volonté de changer.
Oui.
Je l'ai lu dans les yeux des Algériens, des jeunes Algériens, ce qui m'a vraiment surpris parce que j'ai trouvé cette jeunesse merveilleuse, mais vraiment merveilleuse, dans le sens où elle est décidée à changer de vie.
Oui.
À changer de vie, et puis voilà, et c'est ce que je souhaite.
Et donc, tu as passé deux vendredis, tu dis, c'est ça?
Ah oui, j'ai
super.
Fait le 8 mars.
Ah, tu étais là-bas, génial.
Ah oui, ça je vais vraiment le faire. Je l'ai fait, je fais le 8 mars, j'ai fait le 28.
Ouais.
Et voilà, j'ai vu que le peuple algérien, du moins
ça ravivait, ça ravivait quelque chose, hein, des souvenirs.
Ah, ah ben oui, hein, bien sûr. Ouais. Mais de toute façon, je pense
formidable.
Que quand tu as le militantisme en toi, tu le gardes pour toute ta vie. Hein.
Ouais.
C'est pas les années ni l'âge qui vont changer. Changer ça. Donc,
absolument.
Voilà, je voulais dire que je voulais déjà passer un message aux Algériens qui sont là-bas en leur disant que c'est pas parce qu'on est parti qu'on n'est pas concerné, parce que les dimanches, nous, on va marcher sur la place de la République.
Voilà.
Et puis leur dire que on ne les oublie pas et qu'on est avec eux et que, Inch'Allah, Ya Rabbi, tout va bien se passer et que l'Algérie redevienne ce qu'on a connu.
Voilà.
Ce qu'on a connu, quoi.
Avant tout ça, avant la décennie noire. Et,
voilà.
Elle renaîtra. Elle renaîtra de ses cendres. Merci, Nabila. Oui. Merci beaucoup.
Je te fais un gros
bisou. Moi aussi, ma chérie. Je t'embrasse très fort.
J'attends toujours que tu me rappelles, mais bon.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Ah non, mais t'es dans mon cœur. Écoute, je renote ton numéro de téléphone.
Ouais. Et surtout, fais de gros bisous à tes
petits-enfants,
parce que.
J'embrasserai tout le monde.
Voilà,
pour toi.
Très fort.
Merci beaucoup. Embrasse ta maman pour moi. À bientôt.
Oui, fais-lui un petit. Passe-lui un petit message. Elle t'écoute là. Elle va être ravie.
Rappelle-moi son prénom.
C'est Khalti Baya.
Khalti Baya, je t'embrasse très fort et je t'aime très fort. Toi, hashtag bzeb bzeb. À bientôt, ma chérie. Bisous. Au revoir. Merci. Oh, quelle joie, quel bonheur. Et puis surtout, quel souvenir, mon Dieu. Eh oui, nous, tout ça, on l'a connu. Hein. On était très jeunes à l'époque, mais qu'est-ce qu'on a... Ben, on est sortis, on a marché. Et, Et voilà, tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Voilà, et maintenant place aux jeunes. Voilà, on leur remet le flambeau. 01 53 48 3000, on marque une courte pause, c'est ça? Et on revient avec vos appels, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit sur Beurre FM au 01 53 48 3000. Bonsoir Karim qui nous appelle de Paris. Bonsoir Karim.
Ah oui, bonsoir à moi.
Oui, c'est à toi, oui. Il faut éteindre la radio, hein, par contre. Hein.
Oui.
Pas de radio, pas de haut-parleur. Oui, bonsoir, bienvenue.
J'ai éloigné la radio, tout va bien.
Très bien.
Je suis connecté.
Oui, mais il faut éteindre la radio complètement, parce que les ondes te suivent. Hein.
Ah, les ondes. Ah, là,
c'est les ondes.
on est trop connectés d'ailleurs.
Ah ben bah oui, voilà, oui. Bientôt.
Ça parle le monde, hein. Et même en Algérie, hein, partout. Hein.
Ah bah, l'Algérie fait partie de la Terre, hein, donc partout, exactement. Oui, la connexion, elle est.
C'est pas des marchands.
On ne peut pas y échapper. Alors, tu voudrais nous parler de quoi, dis-moi.
Il y aurait tellement de choses à dire. Déjà, la première chose, déjà, vous remerciez. Moi, j'écoute souvent un peu la. J'écoute un peu souvent.
Oui.
Il y a un peu tout. Il y a à boire et à manger, des fois, donc, on entend le soir.
Oui, c'est bien.
Il y a aussi des histoires, quand même, terribles, hein, de femmes qui se sont fait avoir par leur mari et compagnie, par des histoires. J'ai entendu ça une fois un soir. Ça m'a révolté. Ça m'a vraiment fait du mal au fond de moi.
Et je me dis.
Qu'elles sont sûrement très nombreuses et qu'il y a aussi des hommes qui se font avoir malheureusement et du point de vue notamment de leur handicap qui ne se voit pas, et qui sont souvent rejetés parce que ne rentrons pas dans la norme de ce que pourrait attendre, je ne dis pas toutes les femmes, une certaine normalité de femme qui attendrait une certaine norme d'homme aussi, vous voyez.
Ouais. Si non, mais j'entends bien. Oui.
Et
non,
ça fait vraiment mal parce qu'il suffirait que je prononce bien mes phrases avec des mots bien français, alors on me traiterait de francisé, par exemple, vous voyez.
Ouf.
Vous voyez.
Karim, quoi que tu fasses, dis-toi une chose, que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Tu trouveras toujours des détracteurs et des gens qui vont te nuire ou des gens qui vont te critiquer. C'est comme ça. Comme si les gens étaient parfaits pour se permettre de critiquer les autres.
Mais exactement. Ça,
c'est incroyable.
Déjà, c'est par rapport à cette norme, ce conformisme. On attend un type d'homme ou un type de femme, notamment quand on veut rencontrer des gens de même origine.
Oui.
On dit, mais on est quoi? C'est quoi? Mais arrêtez. En plus, ça se dit des fois musulmans, ça se dit ceci, cela. Dès qu'on dit que vous avez handicap, dès qu'on annonce qu'on a un handicap, notamment des handicaps qui ne se voient pas. Je rappelle quand même qu'il y en a plus de 80% des handicaps qui ne se voient pas. Hein, entre hier, quand vous parliez de la surdité ou de tout ce qui est schizophrénie et compagnie.
Mais oui.
Alors, c'est-à-dire que les femmes qui sont autistes ou sourdes ou les non-voyants ou malvoyants n'ont pas le droit d'être aimées ou n'ont pas le droit d'aimer.
C'est
une question que je pose comme ça.
Ah ouais, non, mais.
C'est des sous-êtres humains, quoi. C'est...
Il suffit de.
Ils n'ont pas le droit. Alors, ça, c'est un aspect. Mais par exemple, aussi, un autre point, alors je parle de plusieurs points de vue. Il y a ce côté-là, bien sûr, où les gens d'origine maghrébine, notamment arabe, qui prétendent ou qui se disent musulmans, etc. Je parle de ça parce qu'on est quand même attaché à ses origines. Après, chacun, il met ce qu'il veut dans son attache. Hein,
bien sûr.
Et il faut le respecter, cette diversité. D'attache, hein, comment on perçoit les choses, chacun a un parcours, un cheminement différent. Moi, ce qui m'insupporte le plus, c'est l'intolérance et les gens qui viennent te voir et qui te font des leçons alors qu'ils ne se regardent pas. Je veux dire, j'ai envie de te dire, mais regarde-toi chez toi, comment tu fais avec ta femme, ton homme, tes enfants, comment tu éduques et qu'est-ce que tu as leur apporté surtout à ces enfants.
Les gens qui sont dans la critique, en général, qui regardent la vie des autres, eh bien, c'est souvent pour mieux masquer leur tare, j'ai envie de dire, tu comprends? Et parce que eux-mêmes ont honte, peut-être, de certaines choses qui leur collent à la peau. Hein, t'as un oiseau? Tu as un perroquet?
Oui, j'ai un perroquet chez moi, j'ai plusieurs oiseaux.
Et j'entends son sifflement. C'est beau. Ah ouais, j'ai l'oreille, moi, tu sais, par rapport aux animaux, j'adore.
Ah voilà.
Ah oui, tu vois.
Qui sont malvoyants et qui ont l'oreille fine. C'est vrai que c'est possible.
Formidable. Mais tu vois, les gens, c'est ça. C'est pour mieux camoufler ceux qui n'ont pas envie de laisser paraître. C'est ça, tout simplement. Mais...
Ce que je veux dire, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un peu d'études, et dès qu'on a fait un peu d'études en France, et qu'on est né ici, on me dit, ah, t'es francisé. Parce que toi, t'attends quoi d'un homme qui parle mal, qui parle vulgairement, qui parle le wesh-wesh?
Non, mais il faut faire la distinction entre certains.
Oui,
mais Karim, tu as raison. Alors, il y a une chose, il faut faire la distinction entre certains. Je vais peut-être faire mal. Certains qui sont nés ici, moi autour de moi, ils sont tous nés ici. Hein, je suis mal placée pour le dire. Mais bon, entre certains qui sont nés ici, je dis bien certains, hein, une petite catégorie qui sème la zizanie, petite catégorie, et qui tiennent ce genre de discours et qui te disent ah t'es francisé, ah t'es ceci, ah tu te prends pour un français, et qui ne connaissent absolument pas le pays d'origine de leurs parents. Parce que s'ils connaissaient le pays d'origine de leurs parents, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, eh bien, ils ne tiendraient plus ce discours-là. Parce que là-bas, ils font des études. Les jeunes, là-bas, ils font des études. Il y a des universités. Ils sont tous universitaires. Ils sont tous bardés de diplômes. Donc, ça, cousins, tu comprends ce que... ça les ferait rougir de honte de parler comme ça. Parce que là-bas, tout le monde fait des études. Et là-bas, on dit pas, on est francisé. Non, on fait des études. Voilà, dans les pays du Maghreb, tout le monde fait des études.
Qui est dans la rue,
là-bas, celui qui fait pas d'études, c'est une honte. Tout le monde fait des études. Ah oui, après, ils font les métiers qu'ils veulent, hein. Mais le minimum de bagages, tout le monde l'a. Alors donc, ceux qui te disent t'es francisé parce que tu as fait des études, c'est une petite minorité.
Vous voyez, parce qu'on est ouvert. Ouais, le problème, c'est que c'est pas forcément une minorité qui le dise.
C'est une petite minorité qui n'ont pas de connaissances.
Moi, je trouve que c'est cette minorité.
Hormis leurs petits potes.
Qui s'entendent le plus.
Oui.
Qui ouvre le plus sa bouche, tout le monde.
Et qui disent blédard, etc. pour les gens qui vivent au pays. Exactement. Eh ben, dis donc. J'ai envie de leur dire, t'as Wutschkom. Kono blédard. Parce que ceux qui sont au pays, ils font des études.
J'entends dans le milieu du travail. Le pire, c'est que j'entends dans le monde du travail, ça. Tu vois. En entreprise.
Mais faut pas prêter attention. Faut que ça te glisse dessus, parce que quand tu sais d'où ça vient, franchement, Karim. Voilà. Comment il s'appelle ton oiseau?
Oh, moi j'ai des perroquets, parce que j'en ai vu beaucoup de perroquets.
Mais c'est triste, un perroquet en cage.
Rouge-gorge, au Pérou.
Il parle ton perroquet? Il parle?
Non.
Il siffle seulement?
Les oiseaux n'ont pas la parole.
Il y a des perroquets qui parlent. Des perroquets qui parlent. Celui-là, il ne parle pas.
Plus cher. Pour avoir la parole, c'était plus cher.
Mais moi, j'aime pas les oiseaux en cage. Ils ne sont pas faits pour être en cage.
Non, il n'est pas en cage. Moi, je lui ouvre la cage. Il est chez moi, il se balade. Hein. Oh, normal. Il se balade.
Ouais.
Et après, quand il veut.
Mais c'est mieux qu'il soit dans la nature. Maintenant, c'est trop tard. Mais c'est mieux qu'il soit dans la nature, ces animaux, mon Dieu. Si le bon Dieu leur a donné des ailes. C'est pour qu'ils volent dans les cieux, c'est vrai ou pas? Dans les airs.
On est d'accord.
Ah oui.
Je veux aussi remercier Nabila qui est passée avant.
Ah, c'est ma copine.
J'ai un peu croisé rapidement. J'arrivais à la fin de son.
Je te reprends juste après. On a deux minutes de pause. À tout de suite.
J'en prie.
À tout de suite.
Confidence revient dans un instant.
Quand le PIB augmente, ça veut dire aussi que les salaires augmentent, les dépenses augmentent et donc que l'économie se porte bien.
8h02 précisément, Michel Taube, c'est notre premier invité.
Aujourd'hui, j'ai attendu 27 minutes, mieux que la dernière fois.
Vous n'avez pas de chance, le standard sature.
C'est tout à votre honneur, et puis d'ailleurs, j'ai appelé pour remercier un petit peu Beurre FM, surtout vous.
Ben écoutez, merci.
La seule radio en France, la seule radio que Dieu a donnée qui parle de la
sport. Avec vous, chers auditeurs de Beurre FM, ce soir, on accueillera un invité pas comme les autres, toujours à l'affût des chiffres et des études.
d'habitude dans le sport.
Benzema faisait une saison qui était plutôt pas mal.
L'Ajax d'Amsterdam a vu du dernier ballon d'or Luka Modric.
Que du bonheur pour la suite de ta carrière.
Musique. Hey, tonton, les cabas, ils sont trop
moi j'ai grandi beaucoup avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens.
Tu parles le kabyle couramment.
Parce que moi je suis chleur, je parle chleur. Je suis très cool.
C'est l'artiste, baby.
Culture.
On parle du jeune aujourd'hui avec nos invités Yacine autour de nous.
On parle de voix au chapitre, on parle de littérature.
Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous écoutez Studio B, le magazine signé de Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM pour votre émission Confidence. C'est maintenant que ça commence.
C'est Ali superposé avec rangement à vendre à 300 euros.
Bonjour Imam Abdelali.
Bonjour Philippe.
D'abord, le droit de visite et d'hébergement s'exerce dans le cadre d'une procédure de divorce.
Bonsoir, il est question ce soir de Luzik Rai, le Rai comme on l'aime, tel quel.
Azul Flawan, il était Wultagi, Rajdrit, Awelnar, Wuzak, le Mohand.
Santé. Les équilibres se définissent soit par une hypoglycémie.
J'aimerais que pendant ce mois du ramadan, vous puissiez suivre cette méthode 4R.
Le championnat de France du burger.
On se frottait avec la peau du citron et pas avec l'intérieur.
Philippe, je vous tiens à vous remercier vraiment pour cette radio. C'est magnifique. On découvre des musiques qu'on ne connaît pas parce que moi, c'est vrai, je suis un peu à l'ouest, moi. Et ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, vous rendez beaucoup de services à beaucoup de gens. Et je trouve ça, c'est magnifique.
Retrouvez Beurre FM partout en France sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Tous les jours, passez l'après-midi sur Beurre FM. Musique, jeux et dédicaces. L'après-midi, un rendez-vous à ne pas manquer. Tous les jours de 14h à 17h sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit sur Beurre FM au 01 53 48 3000. Nassira nous appelle de Toulouse. Bonsoir Nassira. Bonsoir Nassira. Alors il faut éteindre la radio, le haut-parleur Nassira. Il faut éteindre la radio et le haut-parleur Nassira.
Ça y est, j'ai tout éteint.
Ah bon? Très bien.
Excusez-moi, mon fils était à la boxe, il rentre maintenant et donc j'étais en train de faire à manger.
Ah, Axel. Bonsoir Axel.
Ah là, il est parti direct à la douche.
D'accord, très bien.
Alors. Donc, voilà, quand il arrive, je m'active.
Ok, je comprends.
Ceci dit, franchement, désolée, je n'ai pas pu vous avoir. Je vous souhaite un joyeux anniversaire.
Oh, c'est trop gentil. Tard,
mais j'y pensais à vous.
Merci beaucoup.
Et
merci.
Ensuite, je voulais répondre à plusieurs sujets. Deux petits mots à chaque de ces femmes que j'ai entendues dernièrement. Déjà, la dame qui a adopté un enfant. Oui. Et qui a eu la maladie
qui est schizophrène,
je sais pas, voilà,
oui.
Voilà. Déjà je voulais la féliciter, déjà elle a adopté, de plus elle a soigné et elle est toujours là et je lui dis bravo. Après moi j'ai des amis qui sont comme ça et du moment qu'ils ont leur traitement ils font comme nous, voilà. Comment elle s'appelle, qui appelle souvent, elle parle doucement, Fatima, non?
Qui appelait tout à l'heure, Fatima.
Oui,
qui Fatima de Paris, oui, notre Fatima.
Des enfants, des attouchements, c'est de
oui.
Suite, c'est ça.
Oui, Fatima, c'est ça.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai travaillé dans le social.
Mm-hmm.
Et on en a vu des murs, des je ne sais pas comment on dit.
Oui, non, mais j'entends. La verte et des pas mûres.
On nous signale, par exemple, des attouchements, des viols. Et en PMI, hein, je travaillais. Et on doit aller voir la famille. Je trouve ça horrible. Il y a pas quelqu'un. On arrive des fois dans des familles où des hommes nous reçoivent avec des revolvers.
Oh, mais non.
On devrait être accompagné d'un gendarme. Surtout mm-hmm. que c'est pour la cause d'un petit être, hein, vous voyez.
Je n'ai pas trop compris. Quand vous découvrez, vous décelez qu'il y a eu de la maltraitance physique. À tout point de vue ou juste sexuel, à maltraitance à tout niveau,
non, je
pense.
Je sais de A à Z.
Oui, de la maltraitance sur les enfants.
Enfermé et
oui, battu, affamé. Voilà.
Sexuellement.
Alors, d'accord. Alors donc, pourquoi vous faites pas appel directement aux autorités, par exemple?
Ben, c'est-à-dire, on n'a pas le rôle de ça. Enfin, moi,
non,
je
mais pourquoi
pas.
Attends. Excuse-moi, Nassira, excuse-moi. On te demande, à toi, c'est quoi ton rôle, toi? C'est quoi ta profession? C'est quoi ton titre?
Alors, moi, en fait, voilà, c'est pour cela que je pouvais.
Oui, mais toi, ton titre, c'est quoi? Qu'est-ce que
moi,
tu.
Je suis animatrice socioculturelle. Bon,
alors, pourquoi on fait appel? Alors, on demande à une animatrice d'aller. Une animatrice.
Non, on va en groupe, hein, on va les médecins. Ah non, la péricultrice.
Mais enfin, non, mais vous y allez en groupe voir la famille. Alors que l'enfant est maltraité, l'histoire elle est claire. Donc alors il y a un constat qui est fait normalement, et puis on envoie ça aux autorités et à eux de faire le travail. C'est comme ça que ça devrait se passer, non? Vous n'allez pas comme ça en groupe faire. C'est pas zornant.
Les lois ont changé. On a été reçu à des revolvers. On disait simplement, viens voir le bébé. Parce que souvent, ces femmes-là, elles ne viennent pas amener le bébé pour le poser. Enfin,
oui,
vous
oui.
Voyez l'évolution. On nous donne l'autorisation d'aller voir telle famille, tel enfant qui vient de naître et. On n'a aucune. Ceci dit, c'est horrible. Hein, et j'ai vu des familles, c'est. Tout à l'heure, la dame, elle disait le père, la mère. Là, c'était tout le monde, le tonton, c'était. Enfin. J'étais mal dans mon travail. À ce moment-là, j'étais très mal dans mon travail. Après, malgré ce sujet douloureux, je souhaitais aussi dire
Alors juste un peu rapide, hein, parce qu'après tu sais, on a des pauses. Anna Syrah.
Ouais, bah,
alors, vas-y. Alors, tu voulais t'adresser à qui? Vas-y, dis-moi.
Je sais plus. Ah oui, à la dame qui disait. Je voulais lui dire que voilà, que tant qu'on a, il y a un monsieur qui a parlé de là où on va faire les prières et tout.
Faire les prières?
Oui, je sais pas, un endroit magique.
Un endroit magique? Je sais pas.
À Lourdes, voilà.
À Lourdes, oui, alors voilà. On a parlé hier de Lourdes, oui.
Voilà, mais moi je voulais
avec
lui
Méziane.
Dire que j'étais d'accord avec vous, Vanessa. Parce que c'est surtout c'est au niveau du cerveau que ça
psychologique
se passe.
Oui
voilà tout à fait
psychique.
Regardez, moi je suis sortie de la morgue et pourtant j'étais morte, mais je crois que c'est l'état d'esprit.
Alors, je crois que tu vas intéresser Méziane, toi. Allez, tu vois, voilà, il y a des morts qui reviennent, hein, Méziane, tu vois, ça arrive, hein, des morts vivants.
Oui,
et je crois qu'il va pas vouloir te rencontrer, parce que tu sais, les morts vivants dans les films d'horreur, on n'a pas envie de les rencontrer, hein. Les revenants, on les appelait.
On m'a sorti d'une pièce, c'était très froid, on m'a mis dans une couverture d'or, et on m'a envoyé ici, je me suis dit, ouais, c'est l'histoire que papa m'a racontée. Quand on va au paradis, on voit que des gens blancs. C'est vrai, c'était que des médecins blancs.
Ben, à partir du moment où on te l'a raconté avant ce coma, tu ne pouvais imaginer que cela. Et tu sais qu'on est des fois dans un délire, hein, quand on n'est plus conscient. Donc on rentre Oui, parce qu'on a le cerveau délirant. Oui. Donc, ce qui fait que on ne peut, parce que regarde, tu as des personnes qui te disent, ah, j'ai vu autre chose qui se passait ailleurs, j'étais dans le coma. Ok, mais comme par hasard, c'est selon sa culture. Alors, t'as des personnes, par exemple, tiens, des musulmans, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont te dire, ah, j'ai fait un rêve, ou alors j'étais dans le coma et j'ai vu des gens habillés en blanc avec des djellabas, un monsieur avec une barbe blanche, etc. Alors, t'as des chrétiens qui n'ont rien à voir, qui vont te dire. Ah oui, j'ai vu la Sainte Vierge, j'ai vu, etc. Alors, donc, moi, j'ai envie de leur dire une chose. Non, c'est votre cerveau qui a vu. C'est votre cerveau qui vous donne une information. C'est du délire. Parce que pourquoi? Parce que personne ne voit quelque chose d'universel. Un truc que personne n'a vu, quoi. Un truc que quelque chose que quelqu'un va nous dire et on va dire, waouh! Ah ouais, ça, c'est exceptionnel. Ben non. Chacun y voit des images de sa fait, propre culture, de ce qu'il connaît. Voilà. Alors donc, posez-vous la question, c'est tout.
En fait, oui, il faut arrêter de... Parce que quand on est fort moralement et quand on a envie, le cerveau, le sang, il travaille justement pour que vous sortiez de votre... voilà, moi j'avais 10 ans, j'étais dans une chambre froide, je sais même pas ce que c'est en fait. On m'a sorti de là, on m'a mis une couverture en or et m'a
envoyé en France. En or ?
Oui, vous savez.
Ah oui, c'est comme enfin celle des pompiers là, c'est ça ?
Et oui, parce que j'étais congelée.
Ah oui, c'est en espèce d'aluminium là. Oui.
Tout à fait.
C'est pour te réchauffer, voilà, en or.
Voilà, eh ben, non,
si c'est en or, tu la quittes plus. T'es dans le coma et tu dis laissez-moi ma couverture. Je ne quitte pas ma couverture. Rajoutez-moi une, j'ai encore froid. Couverture en or.
Non, mais c'est magique parce qu'on se réveille, on voit les anges.
Ah ben dis donc, après, et quand tu te réveilles, les anges, ben, ils ont disparu, hein, ma chérie. Aïe, mal béba. Le réveil est dur. Hein.
Moi, un alcoma.
Ah, 6 mois.
Ils venaient me voir. Alors, j'ai dit, tiens, ils viennent me voir, les anges. Et donc, je ne veux pas désespérer. Il faut essayer d'écouter son esprit.
Voilà, très rapidement.
Son cerveau. Tout le monde s'en sortira si on veut.
Merci,
Manassia. C'est nous.
Voilà, exactement. C'est les paroles de sagesse. Je t'embrasse très fort. Embrasse Axel. À bientôt, ma puce.
Merci.
Bonne soirée.
Vanessa, de gros bisous.
Gros bisous. À bientôt. Merci, au revoir, ma chérie. Allez, on va aller du côté du 94, accueillir Sarah. Bonsoir, Sarah.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, Sarah.
Merci, Vanessa.
Je t'en prie.
Vous êtes bien ?
Oui, très bien, je te remercie.
Donc là, c'était sujet libre, en fait, on m'a dit.
C'est sujet libre, oui, en ce moment. Allez,
d'accord.
On fait sujet libre. Voilà.
J'étais pour parler de deux choses.
Oui.
De l'avortement et de l'allaitement aussi.
Ah, d'accord, très bien.
Ah. Et j'aurais aimé savoir si tu étais pour ou contre l'avortement.
Contre l'avortement ou pour l'avortement ?
Ouais, ouais.
Ah, alors moi, je vais dire une chose. Je ne peux pas être contre ni pour à la place des autres, parce que pour moi, chacun est libre de penser comme il veut. C'est ça la liberté de choix. Bah non, moi, je ne peux pas être contre. Ça, c'est sûr, je ne suis pas contre l'avortement. Et je ne serai jamais contre l'avortement. Mais par contre, chacun est libre. S'il y a des personnes qui me disent, moi, je ne voudrais pas avorter pour raison, par exemple, religieuse ou autre, eh bien, je respecte ça. Tu comprends ?
T'acceptes parce que tu es ouvert d'esprit.
Ah oui, je respecte les avis des uns et des autres. Mais moi, personnellement, si tu me demandes mon avis, si je suis pour l'avortement, je te répondrai, personnellement, je suis pour l'avortement, oui.
Ah non, moi, je suis contre. Après, c'est pas une question de
Non, mais
de
concernant
religion,
les autres, oui.
Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une émission sur la 2.
Oui.
Et c'était une femme qui était enceinte de jumeaux. Et elle pleurait et disait qu'elle a dû avorter à 7 mois de grossesse. Moi, je n'appelle pas ça
7 mois ? Ah non.
Ouais, j'appelle ça un assassinat. C'est un assassinat.
7 mois,
ça
non.
Ça m'a révolté. Et tu sais pourquoi ?
En France, on ne le fait pas, c'est interdit. Hein, c'est la prison, là.
Non, non. Ah non, non. Parce qu'elle attendait des jumeaux et un des deux jumeaux, ils ont dû faire une amniocentèse.
Oui, c'est ça.
Et
prélèvement
de. Un des deux jumeaux était trisomique et elle était en train de pleurer sur l'émission de Faustine en disant voilà, j'ai dû avorter. Et c'est plus un avortement, c'est un assassinat, je suis désolée.
7 mois, non, je pense que c'est interdit en France.
Non, non, non,
ah bon
non, non, c'est pas. Ah non, non, non.
En France
ah non,
ah non, c'est interdit, 7 mois.
Ah non, je te promets que si tu veux, la rediff, elle est sur YouTube et elle est en train de pleurer avec son compagnon. Elle a dit, j'ai fait le bon choix. Pour moi, c'est un assassinat. Moi, j'ai un petit garçon.
Alors, je t'assure, Sarah, vraiment.
Dis-moi.
Je t'assure qu'il y a des lois, et ça, j'en suis formelle.
Je suis au
courant là-dessus. En France, il est interdit.
Après 3 mois, t'as pas le droit.
Bah oui, il est interdit.
Ouais, normalement, d'accord.
C'est la prison directe. Alors là, pour tout le monde, hein.
D'accord.
Ceux qui la pratiquent.
D'accord. Moi, je te conseille de regarder sur YouTube l'émission de Faustine de Faustine.
Ah bah si elle l'a fait clandestinement, je sais, j'en sais.
Non, même pas. C'est les médecins qui ont proposé parce que, voilà, les jumeaux, ils ont vu qu'il y avait un des deux jumeaux qui était trisomique, ils ont donné le choix d'avorter ou pas. C'est même plus un avortement, c'est un assassinat. Moi, j'ai un petit bébé, Vanessa, qui a 9 mois, d'accord ?
Oui.
Moi, je suis contre l'avortement, tout simplement. Avant d'être enceinte, j'étais pour, on va dire, j'étais pour l'avortement. Je me disais, imagine-toi, ton bébé, il est trisomique, ça va être compliqué et tout ça. Donc, voilà, maintenant, je suis contre l'avortement et je suis pour l'allaitement. Tu vois ?
Ah oui, non, mais te concernant, pour l'allaitement, te concernant. Enfin, moi, l'allaitement, je connais beaucoup de femmes qui ont du mal à allaiter parce que, pour maintes raisons. Et donc elle n'allait pas, il y en a c'est parce qu'elle travaille, d'autres parce que c'est douloureux, d'autres chacune ses raisons, hein.
J'entends bien.
Alors donc je peux les comprendre, comme je peux comprendre aussi une maman qui veut allaiter son enfant jusqu'au bout et je trouve ça formidable.
D'accord.
Un avortement pour moi c'est quelque chose c'est quelque chose de personnel, c'est un choix personnel. Ouais. Ouais. Et jamais je ne pourrais condamner une femme qui décide d'avorter parce que elle a sa propre raison. Et heureusement qu'en France, heureusement que l'avortement existe en France. Parce que ça nous évite pas mal de déboires. Il y a des pays où l'avortement est interdit.
D'accord.
Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui, justement, sont arrivées à mettre fin à leur vie parce qu'elles ne pouvaient pas montrer leur grossesse. Parce qu'elles vivaient parce que la grossesse est arrivée alors qu'il fallait pas, hein, parce qu'elles n'étaient pas mariées, etc., pour maintes raisons.
Mais dans ce cas-là, on se protège.
Non, mais Sarah, on peut pas tout, non, mais on peut pas juger les gens. On sait pas.
Ah, je ne veux pas, oui, bien
sûr. On peut pas juger, on sait pas, ma chérie. On sait pas pourquoi. On prend l'accident et c'est vite arrivé, ma puce.
J'entends bien, d'accord. Je vais t'expliquer une chose et c'est vraiment la vérité, hein. J'ai, mon oncle qui est imam, il a adopté un petit garçon, une petite fille, aujourd'hui, qui ont une trentaine d'années. Et sa fille et son fils ils viennent d'enfants de prostituées, on va dire, c'est un bordel en fait. Les prostituées abandonnaient leurs enfants et il a récupéré ses deux enfants et aujourd'hui ils ont une trentaine d'années, tu vois.
Ah non, mais c'est très bien d'adopter. Moi je suis pour l'adoption, alors ça.
Ouais, moi aussi.
Ah oui, l'adoption c'est formidable. Ouais. C'est formidable l'adoption.
C'est quoi ? J'ai un enfant là et j'aimerais bien en avoir un autre, mais pas avoir un naturel parce que j'ai eu des problèmes, une crise cardiaque. Ouais, j'ai fait une crise cardiaque lors de mon accouchement. Bien, bref.
Ouais, préserve-toi.
Après, mon fils a été hospitalisé à Robert-Debré. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes. Il a eu une entérocolite et les médecins m'ont dit madame, vous voulez sauver votre fils. L'allaitement, il n'y a que votre lait qui pourra le sauver. Aucun lait chimique ne pourra sauver, parce que c'est une infection des intestins. Pourra sauver votre fils que votre lait, parce qu'il n'a pas mis que votre lait. Et même dans le Coran, il est préconisé d'allaiter son enfant jusqu'à ses 2 ans. Donc voilà, c'était par rapport à ça, parce que je vois plein de filles. Et bon, moi, j'ai vu des photos de toi, parce qu'on m'a montré le visage, parce que je savais pas à quoi tu ressemblais. Et tu es magnifique, vraiment. Tu
c'est
es
gentil.
Vraiment très, très, très belle, tu vois.
Merci, ça
et,
merci
franchement, beaucoup. Vraiment, tu es super belle.
C'est très gentil, en tout cas.
Ouais, non, mais franchement, j'ai dit, mais c'est elle, Vanessa, mais elle est super belle. Moi, je t'imaginais super vieille, je sais pas, ridée et tout ça. T'as un ami à moi qui m'a montré ta photo, il m'a dit, bah regarde, c'est Vanessa, elle est trop belle et tout ça. Enfin bref, et je parle avec des filles, moi je parle pas foulard hein, du tout. Hein.
Ah bah tu peux, hein, je aucun feu.
Oui, bien sûr.
Bon, vraiment, on n'a pas jugé. Hein, ça par contre, le vêtement, etc., je trouve absurde aujourd'hui de juger les gens qui portent ceci ou portent cela. Non, on n'a pas envie qu'on nous juge, alors on ne doit pas juger les autres. Voilà.
J'entends bien.
C'est vrai. Hein.
Ces filles-là qui sont là, qui disent machallah, qui disent machallah à longueur de journée, qui disent je ne serre pas la main à un homme, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, apportent le gilbeb et qui n'allaitent pas leur enfant alors que c'est préconisé. Un jour, j'ai vu une femme dans un magasin, une petite jeune, hein, une gamine, elle était avec son bébé, je lui dis mon enfant. Elle me dit la galère, ça ne va pas la tête, je n'ai pas que ça à faire.
Oui, mais moi, ça, c'est un choix personnel, Sarah.
J'entends bien. Mais
je
moi,
trouve que tu es dans le jugement, mais non.
Ouais.
Autour de moi, je vois des femmes qui n'ont pas allaité. Mmh. Et très honnêtement, leurs enfants, ils se portent en très bonne santé. Tout va bien, enfin voilà. Regarde, il y a des pays où ils n'ont pas d'autres moyens que d'allaiter. C'est vrai.
D'accord.
Donc, il n'y a pas le lait, etc. Et pourtant, il y a des enfants qui ont vraiment des soucis de santé. Ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que c'est marqué quelque part que si, il faut donner que... Non, Sarah, il faut sortir de tout ça.
Non, c'est même pas pour
ça. Il faut penser un peu par soi-même aussi, en même temps.
C'était pour sauver mon fils, moi, que j'ai fait ça.
Donc, voilà, parce que toi, les médecins te l'ont préconisé, c'est très bien. Mais une femme qui ne peut pas allaiter son enfant pour X raisons, parce qu'elle est douillette. Et je peux la comprendre. Moi, je suis très douillette. Alors, je peux comprendre ça. Hein. Elle est douillette. Après tout, hein.
Parce que les femmes vont tomber. Parce que moi, j'ai entendu comme on m'a dit parce que les femmes vont tomber. Parce qu'après les
parce que les seins tombent. Non, elles le font pas pour ça. Non, non, parce qu'elles ont, parce que tout simplement, ou elles travaillent, ou parce qu'elles ont, voilà, psychologiquement, elles ne supportent pas, ou alors elles ont mal, ou.
Ouais.
Mais ça les regarde, enfin, moi, je. Franchement, ça me
dégoûte. Qui m'a dit, le lait me dégoûte. Le lait me dégoûte. Elle vient juste d'avoir un enfant qui est prématuré. Elle m'a dit, le lait me dégoûte.
Le lait,
quand je l'ai vu sortir de mon sein, elle a dit, je ne pouvais pas lui dire.
Ah, c'est possible, tu sais. Psychologiquement, tu sais, on a tous des, je sais pas, des tocs ou des phobies. Ça, on peut appeler ça des phobies. Et qu'on il y a des choses qui nous font peur. On s'en défend et elles ont le droit. C'est comme l'avortement, par exemple. Tu me dis, je suis contre l'avortement. On n'a pas à être contre ou pour. On peut l'être pour soi. Pour soi. Soi. Par exemple, tu n'as pas envie d'avorter, parce que tu es contre et tu ne le feras pas. Donc c'est très bien. Mais ça te concerne.
Ouais,
mais tu ne peux pas dire je suis contre tout court les autres. On peut pas décider de la vie des gens.
Mais je suis trop radicale, hein.
Mais oui, je trouve. Dans ton propos. Il faut être un peu plus souple, chérie. Les gens, dis-toi une chose, que chaque personne, elle a sa raison de faire les choses et de penser comme elle pense.
Elle est libre. Elle a son
et heureusement. Et moi, je dis heureusement cette chance que nous vivons dans un pays de liberté et qu'on peut avorter. Parce que l'avortement, eh bien, ça peut rendre service parfois. Voilà. Ça peut rendre service. Tu as des femmes, et rendre service à qui? Pas qu'aux femmes. Pas qu'aux femmes. Hein. À qui? Eh ben, à ce futur bébé qui va naître. Parce qu'il y a des enfants, il y a des enfants qui viennent dans de très mauvaises conditions. Eh bien, peut-être qu'ils seraient pas venus au monde, ça aurait été mieux pour eux. Donc, ils sont venus dans de mauvaises conditions. Et ces femmes n'avaient pas la possibilité d'avorter. Et ces enfants, eh bien, leur avenir est complètement détruit parce qu'on voit comment ils sont pas attendus, ces enfants, ils sont pas attendus, ils sont maltraités, pas aimés, etc. C'est terrible, leur sort est terrible. Donc parfois l'avortement a du bon. Alors pour pas faire souffrir un enfant, vaut mieux avorter. Voilà, si on n'est pas prêt d'avoir un enfant, si l'accident est arrivé. Et puis t'as des viols aussi, t'as des femmes qui ont été violées, t'as des pays. Tu as des pays où ils disent comme c'est interdit. Alors donc même les viols, c'est interdit aussi. C'est pas être borné et buté, ça, franchement.
D'accord, je vais dire quelque chose, c'est que mon mari, j'espère qu'il le savent, un jour j'avais 16 ans, et ma mère, elle m'a dit quoi? Tu sais ce qu'elle m'a dit? J'avais 16 ans, elle m'a dit j'aurais dû faire...
Un avortement, j'aurais avorté.
Non, elle m'a même pas dit ça comme... Elle m'a dit j'aurais dû faire ce qu'on m'avait imposé de faire. J'ai dit, mais pourquoi elle me dit ça? Tu sais, en arabe, elle me dit. Et j'ai demandé à ma grande sœur, j'ai dit, mais pourquoi elle m'a dit j'aurais dû faire ça? Elle m'a dit, écoute, en fait, ton père, il avait beaucoup d'enfants, papa, il avait beaucoup d'enfants, et il a accompagné à l'hôpital ma mère, il l'a accompagné à l'hôpital, et comme ma mère, elle comprend pas le français, et elle a compris qu'après, c'était pour avorter, et elle s'est sauvée de l'hôpital.
Il avait beaucoup d'enfants, c'est-à-dire avec une autre femme?
Non, avec moi, avec ma mère. 9.
9 enfants? Ah oui.
Ouais.
Ouais.
Ma mère a s'allongé elle a compris quoi. Elle avait compris que mon père lui a dit que c'était pour un contrôle. Elle a compris que voilà. Et elle s'est sauvée de l'hôpital. Tu vois? Donc moi, j'aurais pas dû exister si, tu vois? Je sais pas si tu comprends.
Ouais, et comment tu l'as pris ça? Comment tu le prends maintenant? Quand on t'a dit ça, comment?
Non, rien du tout.
Tu comprends, parce qu'elle avait... Voilà, bon.
Mais elle m'a sauvé ma vie, quoi.
Ta mère, oui, oui.
Ouais, oui.
Tu es heureuse d'être là, tu vois.
Grave.
Elle vous a donné de l'amour au neuf, pareil?
Non.
Non? Pas d'amour?
Non. Je suis canine, elle est canine, on est l'amour c'est dans le cœur en fait, on n'est pas très
T'exagères, les cabus, mais tu rigoles ou quoi? Ah, c'est non, comme si c'était une race à part.
Non, on n'est pas sexueux.
Mais ça va pas. Mais c'est comme partout, t'as des mamans qui le sont, d'autres pas, ça n'a rien à voir. Je te reprends après, à tout de suite. Je te reprends juste après.
Ouais, vas-y.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Vanessa et Sarah qui nous appellent du 94. Sarah, oui, alors on reprend.
Donc on disait,
je te laisse terminer, voilà. Oui, alors.
Et dernier sujet, tu penses quoi de la mixité?
De la mixité,
exemple,
c'est-à-dire?
Ouais, de la mixité dans les couples.
Oh, ah alors, là, tu prêches une super convertie là-dessus. Hein. Ah ouais, moi je suis à 1000%. 1000% pour.
Italien.
Ah non, mais je suis 1000% pour. Ah ouais, alors vraiment, là...
Ouais, mon mari, il est italien. Et qu'est-ce que tu penses du personnage de Bassem? Tu connais Bassem ou pas?
Bassem? C'est qui Bassem?
Ouais. Bassem, c'est, on va dire, un influenceur sur Internet qui prône...
Je connais pas du tout.
Qui est contre le... Ah ouais, qui...
Qu'est-ce qu'il dit, ce Bassem, tu dis? Je connais pas. Je pensais que c'était un personnage de fiction, un dessin animé, non?
Bah non, pourtant il fait.
Je connais pas.
Il fait parler de lui, là, il est en prison. Il est contre la mixité, il est contre les couples black rebeux.
Mais de quoi je me mêle, hein?
Les couples. Voilà, plein de choses comme ça.
Mais de quoi je me mêle?
Les beurrettes swag qui portent le foulard et qui se maquillent à gogo. Après, il y a des idées que je partage aussi, moi, si tu portes le foulard.
Alors là, quelqu'un qui a des idées comme ça, t'as plus envie de partager rien avec lui, quoi. Surtout pas.
Il est marrant. Il est marrant.
Marrant? Bah, dis donc, je trouve pas ça marrant. Écoute, moi, c'est pour ça que je connais pas, alors. Parce que ça, tu sais quoi? Déjà, le cerveau, il est fragile. Un cerveau humain. Regarde, par exemple, t'as des gens, tout de suite, ils tombent dans des sectes, etc. Depuis toujours, ça existe. Non, mais je te dis, notre cerveau est fragile. On peut basculer très rapidement. Alors, allez, écoutez, des inepties, je peux t'assurer que ton cerveau va absorber, et ça te fait régresser. Donc, non, il faut avancer. Alors moi, je te donne de bonnes lectures. Lis Eckhart Tolle, Boris Cyrulnik. Il faut avancer avec ça. Va sur YouTube avec ça. Moi, des machins, ce que tu me racontes, là, mais ça va pas.
Yasmina Kadra. Mon auteur préféré, c'est
Yasmina Kadra. Non, mais bon, pour élever... C'est vrai. Mais non, mais pour te donner... Pour absorber de la bonne nourriture spirituelle, on va dire, et philosophique, pour justement s'élever, tu comprends, et bien dormir la nuit et laisser ton cerveau s'imprégner, tu vois, absorber des belles choses, des choses qui vont être utiles surtout, et bien qui vont te hisser vers le haut. Voilà ce qu'il faut écouter, de la lecture audio le soir. Tu mets YouTube, tu écoutes Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, par exemple, ou tu écoutes c'est mes références, hein, Boris Cyrulnik, la résilience, etc. Eh bien, ça t'ouvre des fenêtres sur beaucoup de choses et ça t'apaise et en même temps ça te réconcilie avec toi-même et ton entourage. Voilà. Mais moi, tu me sors des, je sais pas comment il s'appelle, je sais même pas, je veux pas savoir. Alors non, mais franchement, attends.
T'es jamais triste. T'as toujours le sourire. T'as jamais des coups de mou. T'es toujours enjoué.
Oui.
De cette manière.
Oui.
T'as jamais eu de coups bas dans ta vie. T'as jamais eu de tristesse.
Comme tout le monde, j'ai traversé des deuils. J'ai essuyé beaucoup de choses dans ma vie, bien sûr. Ouais. Bien sûr que j'ai eu des moments difficiles. J'ai perdu des êtres très chers. Comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles. Mais j'ai cette possibilité de rebondir. Et je rebondis, aussi bas que je puisse tomber, je rebondis encore plus haut. Voilà, parce que je me dis. Allah Subhanahu m'a donné la vie, je n'ai pas le droit de m'écrouler. Voilà. Donc, et cette vie, elle est courte et elle est précieuse et c'est un cadeau. Ouais. Donc, nous traversons tous des épreuves. C'est comme ça. Subhanallah, on ne cherche pas à comprendre. On passe des épreuves, mais il faut savoir rebondir et remercier l'univers. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, écoute Boris Cyrulnik, la résilience. Écoute Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Et tu verras que là, ça va te donner des leçons de vie. Mais n'écoute pas toutes ces, toutes ces personnes-là qui
non,
te...
Pas, pas,
voilà, oh là là.
Vanessa, je veux dire quelque chose, moi, qui m'a ouvert les yeux. Moi aussi, j'ai eu plein d'œils en 10 ans. J'ai perdu plein de,
ben
de,
oui,
de personnes chères. En mois d'octobre, ça fera 10 ans que j'ai perdu mon petit ami qui est mort il y a 10 ans à Cotigny. Oh, enfin bref.
Ouais, ouais.
Donc, voilà, moi, je me dis qu'il faut sourire à la vie et qu'il ne faut jamais...
Voilà, exactement.
Ouais,
on va aller très vite, Sarah, parce qu'on arrive... Voilà, il nous reste pas longtemps. Puis j'ai beaucoup d'appels. Vas-y, dis-moi. Dis-moi.
Je voulais juste te dire une
dis-moi, ma
chérie. J'ai un ami à moi qui s'appelle Nassim,
oui.
Qui est très amoureux de toi.
Ah voilà. Bon
c'était juste pour... oui.
Elle est pas mal, celle-là.
Mais par contre, il est déjà. Parce qu'on ne sait pas si tu es célibataire. Si
ah, mais oui, elle est en train de faire l'entremetteuse pour Nassim. Ah là 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 là. Ouais. Dis-lui que je suis virtuelle, voilà, c'est bien déjà.
Non, non, non.
Ok.
Non, mais voilà.
Oh, c'est bon, mignon. Ouais. Merci en tout cas, Sarah.
Merci ouais, à en toi. En tout cas, c'était un plaisir.
Moi
merci
aussi, beaucoup. Ma chérie. Je t'embrasse très fort bonne et reviens. Soirée. À bientôt. Bonne
ouais,
soirée.
Pas de problème, bon courage.
Merci, au revoir. 01 53 48 3000, nous reste encore une bonne demi-heure. Hein, vous pouvez venir encore. Et on va aller du côté de. Oh, bah tiens, on va aller chez. Rachida, voilà, Rachida nous appelle du 93. Bonsoir Rachida.
Oui, allô.
Oui, bonsoir Rachida.
Ah, bonsoir.
Bienvenue Rachida, bah, du 93.
Oui, Vanessa, je suis contente de vous avoir.
C'est gentil, moi aussi.
Normalement, je suis chez ma sœur, c'est son portable.
Ah, d'accord.
Et puis, vous passez un petit coucou.
C'est très
elle
gentil.
Elle est timide.
Ah bon timide. Elle s'appelle comment?
Fatima.
Fatima, mais ne sois pas timide, oui. Fatima. Allez, on est entre copines. En tout cas, je l'embrasse très fort, Fatima.
Oui. Bah,
et donc, vous passez la soirée ensemble ce soir, c'est formidable.
On passe la soirée ensemble, on vous écoute, on écoute tous les thèmes.
C'est sympa. Ah oui.
C'est intéressant, voilà.
Oui. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on s'est dit là ce soir, tiens?
Bah écoute.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu, quelque chose qui t'inspire plus, je sais pas.
Bah, la mixité.
La mixité,
moi,
tiens.
J'ai un fils qui est français et arabe.
D'accord. Oui.
Et il est équilibré, il pense ça bien.
Ça ouvre les esprits.
Dans la vie.
Et ça ouvre l'esprit, hein. Moi je trouve que ça ouvre les esprits.
Bien sûr.
Et les cœurs aussi.
Et c'est, on est né en France, donc je veux dire. Il faut se mélanger, il faut vivre ça bien.
Quoi. Et puis on est tous des terriens, parce que sinon,
on est tous des terriens,
si on était de races différentes, eh ben on n'arriverait pas à faire des petits. Par exemple, regarde, tu prends un chat et un chien, ils peuvent pas faire d'enfants.
Non.
Alors
nous,
pourquoi? Parce que ce sont des espèces différentes, des races différentes. Mais nous ne sommes qu'une seule race. Donc il y a qu'une seule race, c'est l'espèce, la race humaine. Si à partir du moment où on arrive à faire des enfants, hein, eh bien, tous, les uns avec les autres, ça veut dire que nous faisons partie de la même race et que nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Mais t'as des gens qui n'arrivent pas.
Je sais pas, j'en sais rien, plus ouvert, plus intelligent. Je sais pas.
Mais c'est parce formidable, la mixité. Même... Ah oui, c'est formidable, moi je suis pour.
La mixité, ouais. Bah, c'est comme les pitbulls qui sont mélangés et tout.
Elle est mignonne. Comme les pitbulls. Mais nous, on n'est pas des pitbulls, nous. Alors, quoique dans la race humaine, t'as certains phénomènes. Parfois, t'as plus confiance d'avoir un pitbull ou être entouré de pitbulls chez toi, hein, franchement, que d'un seul de cette espèce. Ouh là là. Ah, t'as des fous furieux, hein, parfois. Ouh là. T'as des fous furieux parfois, hein. Ouh là 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 là, mon Dieu. Alors ceux-là, on n'a pas envie de croiser leur chemin. Hein.
Ah, et puis il faut s'ouvrir, hein. Il faut s'ouvrir au monde.
Mais bien sûr, mais bien sûr, ce monde est...
Il faut échanger, il faut...
Mais oui, et qu'est-ce qui fait la beauté de ce monde? Et d'ailleurs, la consanguinité, c'est dangereux. Parce qu'avant, ils se mariaient entre cousins. C'est vrai, avant c'était ça. Tu maries avec ton cousin. À la naissance, déjà, eh ben ça y est. C'est fini, ils les ont mariés. Mais c'est très mauvais. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné beaucoup, beaucoup d'anomalies. On l'a vu.
Heureusement que la science est là.
Ben oui. Donc il faut régénérer tout ça. Et c'est bien d'aller ailleurs. C'est bien, c'est très bien. Il faut. Il y a des peuplades chez les Inuits, je crois, et les Esquimaux. Il y a certains peuples chez eux, des ethnies. eh bien, qui ne voit mais vraiment à l'extrême hein, des pôles, pôle Nord, tout ça, pardon, et qui ne voit jamais des personnes, des touristes, jamais. Eh ben oui, il faut avoir l'idée d'aller là-bas, même pas dans les dans le rêve. Hein. Ah, t'imagines, il faut être fou pour aller là-bas. Il y a que de la glace, c'est pas possible. Donc voilà, et c'est très rare qu'il y ait un passager. Mais ça peut arriver. Bon, ça peut arriver. Et avant, encore moins qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de moyens de locomotion, etc. Mais avant, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas d'avion, il y avait des avions à réaction, je ne sais pas quoi. Enfin bref, pour arriver jusque là-bas, il fallait le vouloir. C'était toute une expédition. Et quand il y en avait un. Et oui, et quand il y en avait un qui, quand même, avait poussé la curiosité à aller jusque-là, hein, dans ces extrêmes pôles de je ne sais quoi, eh bien. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces peuples, ces peuples justement qui vivaient en vase clos. Tu sais ce qu'ils faisaient? Ils offraient leurs femmes à ces passagers, ces étrangers qui venaient.
D'accord.
Pour pour régénérer un petit peu tout ça, le sang, pour faire des enfants. Pourquoi? Parce que c'est naturel, hein, c'est la nature qui veut ça, parce qu'on est des animaux avant tout. Eh bien, parce qu'ils se rendaient compte. Qu'ils étaient tellement, ils vivaient en vase clos, ils étaient des toutes petites ethnies, tu sais, vraiment très peu en nombre.
Pour élargir.
Et très peu en nombre, donc ce qu'ils faisaient, ils se mariaient tous avec les uns avec les autres, les uns avec les autres, les uns avec les autres. Et donc ça faisait quoi? Ça faisait des individus bizarres. Ils avaient des têtes, voilà, ils avaient des têtes un petit peu proéminentes. C'était, voilà, ils avaient des choses, voilà. Et puis les enfants mouraient très, très tôt parce qu'ils n'étaient, voilà, parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup trop d'anomalies. Ils se sont rendus compte que c'était ça. Alors, donc, quand il y avait un passager, c'était, tu sais, c'était l'aubaine. C'était, oula, c'était le Père Noël qui les visitait ce jour-là. C'est pas de le dire.
C'est génial.
Tu comprends? Donc, ils offraient et ils régénéraient le sang. Et c'est une réalité, hein, ce que je dis là. C'est pas inventé, hein, ce que je dis. C'est une réalité. Voilà. Et ça s'est fait aussi dans le Sahara. Dans le Sahara, le grand Sahara, où ces peuples qui ne voyaient pas non plus beaucoup de gens passer, et des fois, ils faisaient un petit peu ça. Voilà, sous leur guitoun et tout. Voilà. Alors, donc, le sang, il a besoin d'être régénéré. C'est la nature qui est ainsi faite.
De quel côté du Sahara ?
Ben dans tout le avant il y avait pas de frontières. Par exemple, comme par exemple le Niger, l'Algérie, tout ça, il y avait pas de frontières avant.
Ah d'accord.
Avant il y avait pas de frontières. Je te parle du temps où c'était des expéditions. Les gens traversaient. C'était des caravanes, ce qu'on appelait des caravanes, oui. Avec des dromadaires, etc. Et qui mettaient des années ou des mois pour arriver d'un point à un autre. Alors donc.
Là, à l'époque, ils étaient beaucoup plus ouverts.
C'était des nomades. Non, c'était pas de l'ouverture, attention, hein, pas du tout. Mais c'était juste, si tu veux.
Il y avait pas de.
Il y avait la maladie. Il y avait la maladie. Ils étaient conscients parce qu'ils étaient proches de la nature. Et comme ils sont très proches de la nature, ils ont eu le temps d'étudier cette nature et d'étudier aussi toutes ces anomalies. Pourquoi? Pourquoi tant d'anomalies? Donc ils se sont rendus compte parce que il y avait une consanguinité qui était extrême. Ils se mariaient qu'entre eux. Alors donc il y avait un problème. Alors donc ils se sont rendus compte que finalement quand il y avait un étranger qui passait et qui mettait en grossesse une des leurs, eh bien cet enfant naissait normal entre guillemets. Donc ils ont tout compris. Ils se sont dit ah c'est comme ça que ça se passe. Bon ben voilà. Tu comprends?
Ah oui.
Faut écouter la nature de temps en temps. Donc c'est bien d'aller un petit peu voir ailleurs. Moi je dis que c'est très bien.
Mon fils, il marche bien.
Eh ben tant mieux. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis tu embrasses ta sœur Fatima de ma part aussi, Rachida. D'accord. Je vous embrasse toutes les deux.
La prochaine fois, c'est elle qui appellera.
Voilà, t'as ouvert la route. Ok. À bientôt, bisous.
À bientôt. Merci Vanessa.
Je t'en prie, Rachida. Au revoir. 01 53 48 3000 Lounès, qu'est-ce qu'on fait? La pause. Un petit peu de patience au standard, on va marquer une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Il s'appelle Lounès et il nous appelle de Asnières-sur-Seine, c'est ça. Bonsoir Lounès, pardon. Hein.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, bienvenue, Lounès.
Merci beaucoup. Comment vous portez-vous?
Oh, ben je vais bien, merci, merci. Merci, c'est très gentil. Équipe. Alors ?
Parfaitement. Ben, je vous appelle, je vous avais appelé il y a un petit moment, enfin, quelques reprises pour oui. des sujets.
Je crois reconnaître la voix, oui, oui.
Peut-être, oui. 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 Je reconnais la vôtre aussi.
C'est gentil. Merci.
Alors, moi, je vous appelle, en fait, par rapport au. J'avais un sujet en tête, enfin, j'en avais plusieurs, mais.
Oui.
Dont un particulièrement, qui était les relations hommes-femmes après, après ce qui s'est passé avec MeToo. C'est un sujet qui me tient plutôt à cœur.
Oui.
Et j'ai l'impression que. Bah, déjà, le relationnel homme-femme était un petit peu tendu ces dernières décennies, mais qu'il ne s'est pas du tout arrangé. Avec cette vague de déferlation qui a été MeToo, quoi, qui a été balancée en part, en tout cas en France, parce que ça portait pas le même nom qu'aux États-Unis que dans les pays anglophones.
Oui.
Et aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus complexe d'avoir une relation saine avec le sexe opposé, sans qu'il y ait justement ce regard peut-être inquisiteur ou trompeur, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment pas facile.
De méfiance, peut-être.
Oui.
Hein, plutôt. Bah, tu sais, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, comme on dit. Hein. Alors, ce mouvement, moi je trouve que ce mouvement a du bon, parce que ce mouvement, eh bien, c'est la boîte à Pandore qui a ouvert beaucoup de choses, parce que qui a ouvert surtout les voix des femmes qui ne pouvaient pas parler, qui ne disaient rien pendant longtemps. C'est pas parce qu'avant on disait rien que tout se passait bien. Bien au contraire, n'est-ce pas? Donc, il y avait beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas parler, qui subissaient du harcèlement, par exemple au travail, hein, donc de la part de leur employeur, par exemple, tu vois, et d'ailleurs dans le monde artistique qui a été beaucoup éclaboussé, on a appris beaucoup de choses, hein, on se doute, il y a des choses dont on se doutait pas, même si on se doute que bon, il peut y avoir que, mais là c'était vraiment terrible, hein. Donc voilà, les femmes ont beaucoup subi. Et donc si tu veux, et comme on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux, bien entendu. Ça a fait beaucoup de boucans. Il y a beaucoup d'hommes qui ont tremblé. Ils avaient de quoi. Et par ailleurs, la relation homme-femme, je ne pense pas que ça a gâché quelque chose ou ça a
moi, je pense qu'on a peut-être
dénaturé.
Encore...
Oui, pardon.
Excuse-moi de.
Je t'en prie.
Je pense qu'on n'a pas encore vu les effets pervers de. Ben de MeToo, quoi, de balance ton port, parce que aujourd'hui, certes, il y a eu une déferlante de plaintes de bon nombre d'actrices et de bon nombre de femmes anonymes, et ça, c'est tant mieux. Ça, mm-hmm. c'est l'aspect
beaucoup
tant
dans mieux, le travail, lequel, c'est vrai.
Voilà, mm-hmm. pour lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, et je suis très content que la femme puisse s'exprimer sur ce qu'elle a pu vivre pendant longtemps, et surtout, mm-hmm. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle parle aussi au nom. De leurs aïeux, c'est-à-dire de leur grand-mère, de leurs arrière-grand-mères, de toutes les femmes qui n'ont pas pu parler. Donc, elles parlent peut-être aussi plus fort que s'il le fallait. Mais il y a aussi l'effet pervers qui, j'ai l'impression, n'est pas encore ressorti. Mais peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, on aura peut-être bon nombre de personnes qui auront été peut-être mises en prison parmi certains hommes ou parmi certains politiques ou même certains anonymes. Pour rien, parce que je pense qu'il y aura aussi pas mal de plaintes qui auront été enregistrées et ça causera du tort aux hommes.
Alors, moi je ne pense pas qu'on puisse systématiquement mettre des gens en prison s'il n'y a pas un minimum, hein, je dis bien, de preuves. D'accord.
Ah
alors donc il y a un minimum de non, on peut pas mettre quelqu'un en prison.
La détention provisoire par exemple.
Oui, non mais non, même la détention provisoire. Il faut faire la distinction entre la garde à vue.
Hein. Ah non, je parle pas de garde à vue.
Eh ben voilà.
Non.
Alors la garde non mais je te dis, la garde à vue. Voilà, le temps que l'enquête se fasse, mais la détention même provisoire, il y a un minimum, je dis bien. Il faut toujours un minimum de preuves. Sans un minimum de preuves, on ne peut pas détenir, incarcérer une personne, même en détention provisoire.
Tu sais que dès lors que tu déposes une plainte, ce n'est pas une main courante. Quand tu déposes une plainte,
oui.
c'est quelque chose d'extrêmement lourd, surtout quand c'est sur des sujets, on va dire, de viol ou d'attouchement sexuel.
Oui, d'agression.
Très, très au sérieux. Donc,
oui, bien sûr.
Ça peut gâcher, et je pense que pour l'instant, on n'en voit pas encore les effets pervers de...
Ben, c'est toi
de
qui les vois pas, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'aujourd'hui, tu sais, une information en cache une autre. Aujourd'hui, il se passe tellement, tellement, tellement de choses.
Mais en tout cas, moi, je sens qu'il n'y a plus...
Alors, donc, il y a des informations qui passent en priorité. C'est pour ça que tu ne les entends pas. Mais si tu prends l'effet divers, tu vas en trouver. Hein. Moi, je te le dis, parce que moi, j'en vois. J'en vois passer. Oui.
Bon, ça c'est une chose. Mais en tout cas, par rapport au relationnel homme-femme, après ce mouvement-là, on ne peut pas nier qu'il est plus similaire. Aujourd'hui, on ne peut plus, même le plus joliment du monde, bien comme il faut, avec la cour qui est nécessaire, on ne peut plus aller voir une femme dans la rue, discuter avec, voilà, faire un bout de...
Si tu n'agresses pas la femme, tu n'as rien à te reprocher, toi. On voit, il y a des hommes qui courtisent, qui le font avec beaucoup de finesse, et beaucoup de galanterie. La personne, il y a pas une réponse, peut-être qu'il y a juste un petit sourire de gentillesse, genre merci, mais ça va aller. Eh bien, il n'insiste pas, il continue son chemin. Eh bien, celui-là, il est bien éduqué. Il y a des messages qui passent entre hommes-femmes, comme ça c'est toujours fait. Mais ces campagnes-là, elles sont faites pour les balourds, pour ceux qui ne lâchent pas prise, qui te mettent la main aux fesses, ou alors qui se permettent d'être trop tactile ou des choses comme ça.
Alors, voilà. À titre personnel, moi en tant qu'homme, ceux-là, je suis le premier les montrer du doigt, et en plus de les montrer du doigt, ils font honte au genre masculin.
Mais c'est tout.
Il y a pas de souci sur ça. Voilà. Mais enfin, moi je dis juste que. Il y a une tension, moi je la sens palpable, et à tout âge de surcroît, tu vois. Moi j'ai l'impression que ça touche pas seulement les plus jeunes. Je pense que, voilà, on n'est pas à l'aise. Maintenant, même si tu veux prendre...
Mais tant mieux que les hommes soient moins à l'aise aujourd'hui. Ils ont été trop à l'aise avec les femmes pendant longtemps. Longtemps à l'aise avec les femmes. Excuse-moi.
Tu inclus tout le monde.
Non. Ces hommes-là, justement, dont tu parles, pas les autres. Alors, je vais te dire une chose. Il y a des hommes qui se permettent même des lourdeurs avec des blagues salaces. Tu vois la galanterie. Il n'y a pas de galanterie là non plus. Par exemple, entre collègues, dans des bureaux, j'imagine. Ouais. Tu as des femmes qui sont dans un bureau. Tu as des hommes qui vont se permettre de raconter leurs blagues, comme je disais, salaces, des blagues déplacées. Ben voilà. Alors donc, parce que tout à l'heure tu me dis oui, mais ça met mal à l'aise. Si ça les met mal à l'aise, ces hommes-là, eh ben tant mieux, alhamdoulilah.
Oui,
mais il faut qu'ils apprennent le respect. Voilà.
C'est le minimum de leur punition, c'est que ça les mette mal à l'aise. Je dis bien.
Ben tant mieux, c'est tout.
Ils méritent bien pire.
Mais c'est quoi que tu dis, toi, c'est quoi qui dérange?
Non, mais c'est que par ricochet, ça touche aussi les autres hommes.
Ah non, pas du tout. Moi, tous les hommes que je connais, ça les touche pas. Alors là, ils applaudissent, et tous ils me disent, c'est très bien, on est bien contents.
Moi, je te dis au quotidien, moi je vois que quand je rentre dans un bus, dans un métro, je mets ma sacoche devant moi, au niveau de mon ventre, plutôt que de la mettre derrière, pour pas qu'on...
C'est très bien, parce qu'on a, tous pris le métro un jour, et on sait comment que ça se passait. C'est l'horreur.
Or que justement, moi j'ai toujours été...
Avant on n'en parlait pas, aujourd'hui on en parle.
J'ai toujours été quelqu'un qui tenait la porte aux femmes, qui était toujours souriant.
Oui, mais tu ramènes tout à toi. Toi, tu es différent, Lounès. Mais là, on parle de cette partie d'hommes qui...
Ces énergumènes-là, je leur souhaite même encore pire que le mouvement MeToo. Parce qu'ils ne méritent rien, ces gens-là, à croire.
Ah voilà, alors donc tu devrais être pour, au contraire. C'est parce que tu n'arrives plus à draguer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi.
Non, je n'ai jamais trop été quelqu'un qui...
Tu ne dragues pas?
Enfin... Si, mais très pieusement, on va dire, voilà.
Tu le fais correctement, avec...
Et je tâte le terrain.
Proprement, j'ai envie de dire.
Je tâte le terrain, c'est-à-dire, j'irai pas directement à la suite d'un regard... j'attends que la personne, je la recroise, ou je la...
Voilà, tu fais pas partie de ce genre d'hommes qui vont au direct.
Non, pas du tout.
Eh ben voilà, alors donc ça devrait pas t'inquiéter, c'est très bien.
Non, pas du tout.
Au contraire. Pas du tout. Au contraire.
Et il y avait un autre sujet que je souhaitais aborder.
Oui.
Et je ne sais pas si j'ai encore un petit peu le temps.
Vas-y.
C'était par rapport à la religiosité qui vidait de la spiritualité.
Ah oui, on en parlait tout à l'heure, tiens.
Et ça, c'est pour moi très très important d'en parler. D'ailleurs, je salue la personne qui avait appelé et qui, je sais plus.
Fatima.
Fatima
de Paris, alors, Fatima, oui, qui maîtrise bien le sujet, qui a beaucoup de références, parce que Fatima lit énormément, donc elle a beaucoup de références, et d'ailleurs, je pense qu'elle a fait des études de lettres, d'après ce que je
crois, mais en tout cas, c'est vrai que il y a une charge émotionnelle très positive quand elle s'exprime à la radio, et c'est très très agréable. Ah,
oui, complètement,
ça,
oui.
Je lui tire mon chapeau, c'est une dame avec... voilà, qui envoie beaucoup de choses. Mais oui, moi j'ai remarqué ces dernières années, enfin moi j'ai 37 ans et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir mes premières lectures religieuses, c'était aux alentours de 17-18 ans. Et au fur et à mesure des lectures religieuses que j'ai pu avoir, ou spirituelles, ou enfin, j'ai un petit peu tout lu, que ce soit le Coran, les évangiles, y compris apocryphes, et j'aimais beaucoup aussi Schopenhauer, c'était une lecture...
Ah oui.
Voilà, c'était, même si aujourd'hui on considère qu'il est misogyne, il faut remettre dans le contexte de son époque.
L'époque, voilà, ouais, c'est ça.
Sa misogynie.
C'est vrai.
Moi, ce qui m'a un petit peu frappé, et je vais me retrouver encore à être pointée du doigt, mais il n'y a pas mort d'homme, je suis dans.
T'as bien raison.
C'est dans mes cordes.
Oui.
Moi, je ne comprends pas trop, par exemple. Quand je vois, par exemple, je vais pas stigmatiser le voile ou autre chose. Hein. Moi, une femme, quand je la rencontre et qu'elle me plaît et que c'est sa personne qui me plaît, qu'elle soit voilée ou non voilée, qu'elle ait des cheveux blonds, orange ou bleu, c'est pas le souci. Moi, c'est la qualité du personnel qui compte pour moi. Mais ce que je ne saisis pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a un retour à la visibilité vestimentaire. Et très très souvent, cette visibilité vestimentaire, elle est d'une contradiction notoire. Je m'explique. On peut voir par exemple des paires de Nike à 150 euros ou à 200 euros la paire, fabriquées par un petit chinois pour un bol de riz, portées avec un jilbab complet. Moi par exemple, faut m'expliquer ce que ça, à quoi on renvoie quand c'est comme ça. C'est très bizarre quand même, tu vois. Le djilbab, c'est censé être soi-disant.
Peut-être qu'elle a un survêtement en dessous, non, pour faire du sport, non? Écoute, je sais pas. Tu me dis paire de baskets.
Non, mais c'est pareil. Bon. Quand tu vois quelqu'un en mode saoudienne.
Je vais te dire une chose. Très honnêtement, Lounès.
Non, parce qu'il y avait pas.
Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas ça.
Très franchement.
Ouais.
Il n'y avait pas ça. Et la problématique...
Bah oui, mais chaque époque, elle a ses modes, moi j'ai envie de dire.
La spiritualité, elle-même, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Parce que moi, je suis aussi passée par cette période où on m'invitait à m'affirmer par une certaine tenue vestimentaire parce que ça aurait fait partie de us et coutumes prophétiques, mais à titre personnel... Au fur et à mesure des lectures, de la compréhension de ce qu'est le vivre ensemble en islam et donc dans une société, j'ai saisi qu'en réalité, Dieu voulait de moi que je sois comme je suis au fond de moi-même et comme la société avait besoin de moi et comme la société a besoin de moi, c'est-à-dire être en osmose. Dieu ne te demande pas d'être en décalage. Voilà ce que j'essaye de dire aux jeunes gens et à ces jeunes gens qui portent à leurs pieds des marques, des grandes marques de l'impérialisme américain fabriquées par des petits chinois pour un bol de riz.
Oh non, les chinois, ça va, ils sont très très bien là.
Enfin. Non, mais justement.
Ah, au sud, attends.
Je dis ça parce qu'ils sont maltraités.
Aujourd'hui, en Chine, je pense qu'ils ont un niveau de vie.
Les paires de chaussures américaines,
je pense que.
Pour pas citer
ils n'ont rien à nous envier. Hein.
Pour pas citer.
Ah, peut-être ailleurs maintenant, hein, mais peut-être moins en Chine, je sais pas. Enfin, ils ont un niveau de vie.
Made in China, non, il est milliardaire, mais pas le petit monde de Vanessa.
Oh, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas.
Ils vivent très bien.
Maintenant, si on commence à regarder tout ça, il y a plein de choses qu'on ferait pas, je pense. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ferait pas, qu'on ne... Voilà, enfin, moi, je suis pas trop dans ce genre de matériel, de marque, etc. Mais je pense que tout a un temps et que tout a un âge. Il y a des jeunes, aujourd'hui, qui ont envie... C'est des uniformes, hein, les jeunes. Hein. Tu sais, à un moment donné, ils avaient tous, par exemple, les baskets de la même marque, ou alors tous des survêtements, je crois. Des survêtements avec une cagoule de la même marque, des casquettes d'une même marque.
Il n'y avait pas,
je pense que c'est des modes et ils se copient. Hein, voilà. Alors,
toi, tu parles d'un phénomène sociologique.
Voilà. Mais maintenant, les femmes qui portent maintenant le foulard, tout ça et tout, très honnêtement, aujourd'hui, on devrait plus s'arrêter à ça.
Ah non, mais moi, je ne m'arrête pas là.
On devrait avancer maintenant.
Parce qu'en réalité, regarde.
Parce que c'est pas...
Moi, je pense, c'est ce que je t'ai dit.
Ça les regarde, c'est leur choix. C'est leur choix avant tout.
Justement, moi, je défends la liberté, qu'elle soit de se vêtir d'une manière ou de se...
Ben voilà, c'est ça la liberté. Parce que si on la veut pour soi...
Par contre, attention, la problématique, Vanessa, c'est que, justement, le discours de ces personnes qui souvent ont une rigueur vestimentaire qui s'impose à eux, ils souhaitent souvent l'imposer aux autres.
Oh, pas
tu verras rarement, un discours d'ouverture par rapport à ça.
Bah, écoute,
moi, je te dis, d'un point de vue personnel, surtout chez les hommes, on va dire au style d'Ubayote, d'Arabie Saoudite ou autre, et étant plutôt salafisant et littéraliste, je les vois.
Ouais, mais là, on va dans l'extrême, là. Hein, on va dans l'extrême. Là, on va chez les wahhabites, salafistes, tout ça et tout. Mais une femme qui porte un hijab, qui porte un foulard, elle a rien d'une salafiste, elle a rien elle a pas ces idées-là.
Et aujourd'hui,
d'ailleurs, heureusement qu'il y a des magasins, pour pas les nommer, qui aujourd'hui les emploient. Elles sont toutes mimi, elles sont là, elles sont souriantes, agréables et tout.
On peut les employer. Ces magasins, ils sont trois.
Voilà. Sans donner de nom. Non, on peut pas donner de nom. Mais tu comprends. Alors donc, aujourd'hui, on devrait plus en être là. C'est paradoxal de pointer du doigt justement l'autre qui s'habille de telle manière et en l'acculant de tous les maux de la terre et alors qu'on se on veut pas que les autres nous jugent nous. Moi je comprends pas.
Non.
Tu comprends ce que je veux dire, Lounès? Moi pour moi elles sont libres, et je ne vois même pas ce qu'elles portent pour te dire. Parce que pour moi je vois la personne, la femme, elle est agréable, elle est sympa, le reste.
Tu vois ce que tu dis, c'est intéressant.
C'est ça, ben oui.
Le problème c'est que on finit par voir ce que la personne porte.
Dégage, tu sais pourquoi. Qu'elle soit...
Non, mais tu sais pourquoi? On finit par voir ce que la personne porte.
Oui.
Parce que, en réalité, les médias nous disent tellement le voile, qu'on finit par ne voir.
Mais tu sais quoi? Les médias, ils ont fini par se lasser et se calmer. Alors donc, calmons-nous. Ils sont, ils sont lassés, c'est tant mieux. Oh, qui passe à autre chose, hein, franchement.
Exactement.
On peut s'habiller comme on veut. Liberté, exactement. Liberté, liberté.
Mais ce que je veux dire par là, c'est essayons d'être le moins contradictoire possible avec nos personnes.
Mais tu sais qu'en Espagne, moi qui pars souvent en Espagne, je vois beaucoup de femmes voilées. Jamais à la télévision, on parle de ces choses-là. Hein. Ils parlent de tout. Là-bas, les médias ne font pas cas de ça. Ils ne s'arrêtent pas à ça.
C'est
en France. Il faut qu'on se calme là-dessus.
Vanessa, c'est une maladie purement française.
Justement. On arrive à la fin.
Alors, c'est la laïcité à la française qui est une religion.
La laïcité, c'est chacun s'habille comme il veut et pratique ce qu'il veut.
Quand elle devient religieuse, comme la France le demande, c'est très dangereux.
Voilà. Lounès, je suis obligée de te laisser. Non mais ça y est, c'est fini,
tout le monde.
Je t'embrasse très fort, Lounès. Reviens.
De la page également Beurre FM, Nabila, mon ami, et tout le monde, et à très bientôt.
Gros bisous, à bientôt, Lounès. Merci d'être passé ce soir. Il est aussi bavard que moi. Farida de Mantes-la-Jolie, Dominique de Troyes et les autres, venez demain. Merci, Hugo. On se dit à demain. À demain, avec son sourire, toujours, Hugo. Allez, belle et douce nuit, faites de beaux rêves. À demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.